au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule « Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination » ou « La grande prostituée ».
Contrary exactly to the Bible. Absolutely contrary. Now, a beast which was, which is not. Now remember, all of them will be deceived upon the earth whose name is not written from the foundation of the world. That's the. And the beast that was, and is not the 11th verse, and yet is the 8th, now the 7th, and goeth into perdition. He'll continue on until he hits the bottomless pits at the end of the road. And the 10 horns which thou saw are 10 kings. Now watch here. If you want to see something striking, watch this. Are 10 kings which have received no kingdom as yet, but received power as kings 1 hour.
Premièrement, pendant un court instant, vous entendrez Frère Branham prêcher en anglais. Puis vous entendrez la traduction française de ce message.
That's just this little shadowing time right now where dictators are rising up. They receive power as kings. 1 hour with the beast. Now, all right. These have one mind and shall give their power and strength unto the beast. These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. Glory! For he is Lord of Lords and King of Kings. And they that are with him are called the chosen and faithful. Wish I could preach a sermon right now then. The chosen before the foundation of the world and abiding faithful in their calling. Hallelujah. That's it. They are called the chosen and the faithful. And the conjunction. The chosen and faithful. They shall overcome him. No matter how great he is.
La semaine prochaine, mercredi soir, pour un réveil ici, dans le tabernacle. Et Dieu voulant, le Seigneur m'a promis un ministère nouveau et différent. Et si cela lui est agréable, j'espère commencer ce nouveau genre de réunion la semaine prochaine, ici au tabernacle, comme premier endroit. Et après cela, je n'ai aucune réunion prévue si ce n'est celle d'Australie et de Nouvelle-Zélande, en janvier prochain. Et ensuite, frère Osborne tiendra une réunion commune à laquelle je lui ai plus ou moins promis d'aller il y a quelque temps à Tulsa, mais nous n'en sommes pas encore sûrs. C'était certainement un plaisir, frère Jeffries, de pouvoir vous serrer la main ici derrière et aussi d'entendre votre fils chanter ce cantique avec votre accompagnement. J'aime voir un père et un fils. N'aimez-vous pas cela? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est juste, monsieur Genther, vous savez que c'est juste, tous les deux. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et c'est vrai. Peut-être que parfois, il s'en détournera, mais cela ne le quittera pas. Cela restera toujours avec lui. Cette première formation et tout ce qu'on lui a appris resteront assurément en lui. Maintenant, j'ai rencontré frère Jeffries dehors, et je lui ai dit, frère Jeffries, je pensais que vous savez que je suis toujours content d'avoir la visite de mes frères. Mais quel soir pour qu'un frère vienne nous rendre visite. Cette soirée, avant le réveil, est destinée aux habitués du tabernacle. C'est le soir, nous voulons prendre ce soir, demain matin et demain soir, pour répéter ce que nous croyons ici au tabernacle. Nous croyons des choses terriblement étranges, très particulières, mais nous les trouvons pourtant dans cette Bible. Elle semble effectivement s'y trouver. Et maintenant, s'il se trouvait ici un frère ou une sœur qui viennent de l'extérieur et appartiennent à une dénomination ou qui ne soient pas d'accord avec ce qui sera dit ce soir, nous voulons néanmoins que vous sachiez que vous êtes tout à fait les bienvenus. Vous êtes vraiment les bienvenus. Mais maintenant, je vais, et nous apportons ceci d'une façon assez dure. Ainsi, s'il vous semble que vous ne pouvez être d'accord avec cela, eh bien, faites comme moi quand je mange de la tarte aux cerises. Quand je mange de la tarte aux cerises, c'est celle que je préfère. Je ne jette pas la tarte chaque fois que je trouve un noyau. Je jette seulement le noyau et je continue à manger la tarte. Ainsi, ou lorsqu'on mange du poulet. Or, vous aimez tous le poulet, voyez-vous. Et quand vous arrivez à un os, vous n'arrêtez pas de manger. Vous faites le tour de l'os et vous continuez à manger le poulet. Eh bien, faites ainsi ce soir tandis que je parlerai. Quand vous toucherez quelque chose, dites, je me trouve ici et il s'agit pendant ces trois prochaines réunions de la doctrine de cette église. Il répète en quelque sorte ce qu'il croit, et pratiquement, la seule façon de faire croire quelque chose à quelqu'un, c'est de l'enfoncer si fort qu'il devra reconnaître que c'est juste. C'est le seul moyen de le faire mordre. Tenez par exemple, Monsieur Wood, avec qui je me suis trouvé, m'a dit que si vous n'enfoncez pas le clou, si vous n'enfoncez le clou qu'à moitié, la planche ne tiendra pas et le vent l'emportera rapidement. Mais vous devez le planter à fond et le faire bien mordre. Ainsi, si j'appuie durement sur tête certaines de ces choses, j'aimerais que vous, qui nous rendez visite ce soir, sachiez que je n'essaye pas de me débarrasser de vous, mais que j'essaye simplement de faire bien comprendre à cette église ce que nous croyons. Maintenant que tous ceux qui ont bien compris disent Amen.
Amen.
Bon, ça va. Maintenant, je vais me décharger de ceci, et ensuite, il l'enregistre. Si bien que si plus tard quelqu'un veut savoir ce que nous croyons vraiment, et quelle est notre position, ces enregistrements vous le diront. Et nous faisons ceci de temps en temps parce qu'il vient ici de nouvelles personnes, et ensuite nous continuons. Nous ne pourrons pas traiter de toutes les doctrines de cette Église, nous n'allons parler que de certaines d'entre elles. Toutefois, dès mercredi soir, lundi et mardi, je m'en vais pour prier et me préparer pour les services de guérison. Et vous pouvez prendre le téléphone ou faire autrement, et amener ici tous ceux que vous voudrez pour ce prochain réveil. Et dites-leur de ne pas venir en étant pressé, de ne pas venir en disant « Je vais vite aller ce soir pour qu'on prie pour moi, et demain soir ce serait... » Ce n'est pas ainsi qu'il faut agir. Entrez et écoutez un moment, parce que nous voulons prendre notre temps et exposer cette parole si parfaitement que le diable n'aura pas le moindre espace pour bouger. Et quand votre foi est à son maximum et que vous commencez à croire, laissez alors agir votre subconscient. Et la foi de Dieu l'appuiera. Alors vous y allez, voyez-vous, parce que votre foi ne fera pas beaucoup. Votre subconscient doit se déplacer dans la même direction que votre foi, alors la foi de Dieu vient appuyer par derrière et confirme le tout, voyez-vous. Mais si c'est votre foi, oh oui, je l'ai maintenant, alors que votre subconscient dit ici, je me demande si cela marchera chez moi, cela n'arrivera pas, voyez-vous. Ainsi nous voulons que ceci soit un véritable service de guérison. Et avant de prendre qui que ce soit dans les chambres pour la guérison ou pour ces nouveaux services, je veux qu'ils comprennent vraiment la raison pour laquelle ils y viennent. Ainsi, souvenez-vous-en et venez nous rendre visite. Nous serons heureux de vous avoir. Maintenant, souvenez-vous que demain matin ainsi que demain soir, nous allons continuer avec la doctrine de cette Église. Vous êtes les bienvenus et n'importe qui peut venir. Nous sommes toujours heureux de voir chacun. Mais ce qui est apporté ce soir est simplement destiné aux gens de ce tabernacle, qui ont été instruits dans cette doctrine, car à l'extérieur de les réunions d'évangélisation, nous ne prenons que la doctrine vraiment fondamentale et évangélique des Écritures. Mais ici au tabernacle, nous avons nos propres pensées et nos propres convictions en tant qu'Église. Et c'est ce dont nous allons parler ce soir. Avant d'ouvrir sa parole bénie, inclinons encore nos têtes pour un instant de prière. Dieu Tout-Puissant, tu étais Dieu avant même que le monde commence à tourbillonner autour du premier atome. Tu n'as absolument pas changé Et quand il n'y aura plus d'atomes pour le tenir et plus de monde à tenir, tu seras toujours Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu n'as jamais eu ni commencement de jour ni fin de vie. Tu existeras toujours. Et Père, toi qui es infini, alors que nous sommes limités, nous te demandons ta miséricorde divine, ô Dieu. Nous réalisons que notre esprit doit se fondre dans l'éternité, sortir de cet élément de temps pour rentrer dans l'éternité. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes ici pour contrôler ce qu'il en est de notre salut, pour voir quelle est notre position vis-à-vis de ta parole, et pour voir où en sont nos expériences. Faisons-nous ce qui t'est agréable? Notre esprit rend-il témoignage à ton esprit? Et notre enseignement rend-il témoignage à cette Bible? Puissions-nous, Père, examiner attentivement tout ceci au cours de ces 3 prochaines réunions. Accorde-le, Seigneur. Bénis le pasteur ici, les diacres, les administrateurs, et tous les laïcs, tous les gens qui viennent dans cette église. Depuis que je me trouve ici, Seigneur, il y en a beaucoup, beaucoup, dont je ne connais même pas le nom ou l'endroit d'où ils viennent. Mais je suis sûr que tu connais tous deux. Et nous sommes ici ce soir, Seigneur, dans un but. C'est de communier autour de la parole écrite. Et donne-nous le Saint-Esprit dans nos vies. Et puissions-nous, tandis que nous sommes assis dans la paix, le calme et dans la crainte de Dieu, examiner nos vies par ta parole. Accorde-le, Seigneur. Dans ce bâtiment ce soir, Seigneur, il y a mes frères qui appartiennent à différentes tendances de l'Église. Je suis si reconnaissant, Seigneur, qu'ils soient ici pour fraterniser. Il se peut que nous ne soyons pas d'accord sur certains petits points de doctrine, mais quant à ce principe fondamental, nous sommes des frères unis vis-à-vis de « Ô Dieu, que cela fortifie notre communion et que les liens de la grâce de Dieu et de son amour reposent abondamment sur nous. » Nous réalisons, Seigneur, que c'est un travail trop grand pour un homme, parce que nous devons tenir compte ce soir de la destinée d'âmes qui sont liées pour l'éternité. Aussi, nous prions afin que le Saint-Esprit aille directement dans la parole, puis nous expose et nous explique comme il entend les choses qu'il désire que nous sachions. Accorde-le, Seigneur, et lorsque les 3, la période de réunion sera terminée, puissions-nous partir en étant une église fortifiée, comme des gens unis pour joindre nos cœurs et nos buts, tous ensemble, avec nos concitoyens du royaume de Dieu, et aller de l'avant comme jamais auparavant. Je veux te remercier, Seigneur, en présence de l'église et des gens qui se trouvent ici, de m'avoir maintenant donné plusieurs semaines de vrai repos. Je me sens en pleine forme ce soir à cause de ta présence et de tes bénédictions. Amen. Ô Dieu, nous te prions pour le frère ici, notre frère qui part outre-mer. Tout là-bas dans ces pays sales et enténébrés, où sa vie est exposée. Ô Seigneur, bénis notre frère Jeffries, tandis qu'il part, ainsi que son fils et sa femme, et donne-lui beaucoup de fruits. Puisse-t-il percer des trous dans les ténèbres, afin que la lumière de l'Évangile brille de tous côtés. Exauce-nous, Père, car nous te présentons cette requête au nom du Seigneur Jésus, ton Fils. Amen. Maintenant, ce soir, tandis que je lis dans ma petite Bible Scofield. J'ai eu 25 ans récemment et je peux toujours la lire, mais cela devient assez flou. C'est pourquoi je me suis acheté une paire de lunettes de lecture pour étudier. Et je vais voir comment elles vont ce soir pour la première fois. Maintenant, j'ai des sujets comme ceci qui doivent l'Église. Oh, de nombreuses choses, si nous pouvons y arriver. Par exemple, pourquoi sommes-nous appelés l'Église? Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Pourquoi croyons-nous en la sécurité éternelle de l'âme des croyants? Pourquoi condamnons-nous les femmes prédicateurs? Pourquoi baptisons-nous par immersion? Et l'Église passera-t-elle par la tribulation? Et encore beaucoup d'autres. Je pense que j'en ai entre 15 et 18 pour ces prochains soirs. Aussi, je pense commencer ce soir par un sujet que le Seigneur semble m'avoir mis sur le cœur. C'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. La raison pour laquelle nous n'avons rien contre les gens qui sont dans des dénominations. Nous n'avons rien contre eux, mais je veux expliquer pourquoi nous n'avons jamais voulu nous joindre à une quelconque dénomination. J'ai reçu mon ordination dans une petite église baptiste. Comme vous le savez, les baptistes ne sont pas une dénomination, ou ne l'étaient pas jusqu'à tout dernièrement. Et maintenant, ils deviennent une dénomination autant que les autres. Mais la raison pour laquelle nous ne sommes jamais devenus une dénomination, cependant, nous sommes une organisation. Nous sommes une organisation enregistrée comme telle, ici auprès des autorités. Un groupe de gens organisés ensemble pour adorer Christ. Mais nous ne sommes pas une dénomination. Personne ne dominera sur nous, voyez-vous. Ce n'est pas une dénomination, c'est simplement une organisation fraternelle de croyants chrétiens. Les gens viennent ici à l'église et cela devient leur église. S'ils désirent venir durant toute leur vie, et ils peuvent venir ici et être en désaccord avec tout ce que nous prêchons, c'est tout à fait en ordre. Tant que vous êtes chrétien, vous avez la communion et une main tendue, comme les autres, voyez-vous. Si j'ai dit que je croyais au baptême d'eau par immersion, et que vous croyiez en l'aspersion, et que vous teniez à cela, nous resterions comme nous étions lorsque nous étions tous deux d'accord. Il se peut que nous ne voyions pas les choses sous le même angle, mais tant que vous êtes un frère ou une sœur chrétien, vous êtes tout à fait les bienvenus, chacun, voyez-vous. Nous n'avons pas de dénomination parce que je pense que les dénominations séparent les frères. Certains disent, nous n'avons rien à faire avec ce réveil, c'est un réveil méthodiste. Eh bien, c'est baptiste. Comme nous sommes méthodistes, nous n'avons rien à faire avec cela. Mais frères, si Christ s'y trouve, nous avons tous à faire avec cela. Nous devons mettre notre... C'est le corps de Christ qui souffre. Et je le vois si souvent aujourd'hui dans les différents pays. C'est ainsi que nous avons... Or, Christ n'a jamais, à aucun moment, organisé d'église dénominationnelle. Sachez-le bien. Demain soir, je vous demanderai s'il y a des choses que vous désirez connaître, comme un fait historique, que je cite ou autre chose, que je n'ai pas le temps d'approfondir parce que je désire passer à un autre sujet, étant donné que l'on pourrait passer des semaines sur un même sujet. Mais si vous voulez connaître l'endroit ou quoi que ce soit d'autre, posez-moi la question par écrit. Mettez-la ici, sur la chaire, et je m'arrangerai pour vous en donner la réponse. Ainsi, la plus ancienne dénomination est la première église dénominationnelle que nous ayons. C'est l'Église catholique. Elle fut organisée environ 300 ans après la mort du dernier apôtre. C'est vrai. Vous trouvez cela dans les Pères de Prénicée, dans les écrits de Joseph, et oh, de nombreux historiens célèbres. Voyez-vous, et dans n'importe lequel des âges de l'Église, jusqu'à la mort du dernier apôtre, et encore pendant 300 ans, il n'y eut pas d'Église dénominationnelle. L'Église catholique fut la première dénomination en tant qu'Église. Et les églises protestantes sont les dénominations qui sont sorties d'une dénomination. La première réforme fut celle de Luther. Après Luther vint Zwingli, après Zwingli vint Calvin, et ainsi de suite, en passant par le réveil wesleyen, puis Alexandre Campbell, John Smith, et ainsi de suite. Voyez-vous? Et les derniers mouvements que nous ayons eus sont les différentes phases de l'âge pentecôtiste. Je crois que Dieu a traité dans chaque âge, mais avez-vous déjà remarqué que chaque fois qu'une église faillit, et qu'aussitôt qu'ils deviennent une dénomination, ils commencent à tomber à ce moment-là, et lorsqu'ils tombent, Dieu ne relève plus jamais cette église, elle tombe en décadence. Si vous voulez connaître les faits historiques à ce sujet, nous pouvons vous les fournir, démontrant qu'aucune église, que dans l'histoire des églises, aucune dénomination n'est tombée pour ensuite se relever. Que ce soit les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, les luthériens ou autres, quand ils tombent, c'est fini pour eux. Or, c'est vrai. Maintenant, je vous ai dit de mettre votre veste, parce que nous allons faire pénétrer ceci. Voyez-vous, il n'y a jamais eu, quand un homme sort en tant qu'individu et organise une église, cela commença. Dieu traite avec des individus, non avec des dénominations. Dans aucun âge, Dieu n'a traité avec une dénomination. Il a toujours traité avec un individu. Dans l'Ancien Testament, il a traité avec des individus. Dans le Nouveau Testament, il a traité avec des individus. Dans n'importe quel âge, il a toujours traité avec des individus et non avec des dénominations. Par conséquent, si Dieu n'est pas dans les dénominations, à quoi cela me sert-il d'avoir affaire à elles en tant que dénomination? Toutefois, je ne parle pas des gens dans cette dénomination, je parle de la dénomination elle-même, parce que le peuple de Dieu se trouve dans toutes ces dénominations. Dieu ne laisse jamais quelque chose arriver sans donner premièrement un avertissement. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui... Par exemple, nous avons des questions qui surgissent dans les églises, comme nous en avons eu une dernièrement au sujet du sang, de l'huile, etc. Et vous êtes au courant de la lettre « Cher frère Branham », etc. Mais la raison pour laquelle je me suis opposé à cela, c'est que cela ne se trouve pas dans la parole. Et c'est la raison pour laquelle je suis contre les dénominations, parce que cela ne se trouve pas dans la parole. Il doit y avoir quelque chose sur quoi baser notre foi. Et si nous ne pouvons pas la baser sur une dénomination, nous devons la baser sur la parole de Dieu. Car c'est le seul fondement, la parole de Dieu. Et alors, si la parole de Dieu ne parle pas de dénomination, mais qu'elle parle contre la dénomination, alors nous devons parler selon la parole, sans nous préoccuper de ce que l'évêque ou quiconque dit, de ce que quiconque pense, de ce qu'un homme bon dit, de ce qui que ce soit, de quoi que ce soit, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, alors c'est faux. Voyez-vous, la parole doit être la dernière chose. La parole de Dieu doit être l'amen final. Maintenant, souvenez-vous que je ne cherche pas à excommunier qui que ce soit. Vous le comprenez. Dans les dénominations, il y a des dizaines de milliers de précieuses âmes dans toutes ces dénominations qui sont des enfants de Dieu. Mais je suis contre le fait de les séparer, de les grouper à part. Et la parole de Dieu y est opposée. Et je crois qu'il n'y a pas d'isme dans le pays aujourd'hui, qu'il n'y a jamais eu d'isme dans le pays dont la venue n'était prédite par la parole de Dieu. Je crois que la parole de Dieu pourvoit à tout ce dont nous avons besoin, et cela se trouve ici même dans la parole. Du commencement à la fin, cela se trouve ici dans la parole de Dieu. Et je crois que si cela se trouve dans la parole de Dieu, alors nous devrions, elle prédit, et la parole de Dieu est un avertissement. Cependant, vous ne lisez pas la parole de Dieu comme vous liriez un journal. Vous lisez la parole de Dieu par le Saint-Esprit, voyez-vous? Parce que le Saint-Esprit lui-même, parlant à travers Christ, Christ remercia Dieu d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de les avoir révélées aux enfants qui sont prêts à apprendre. Ainsi, vous voyez qu'il n'y a pas moyen d'être instruit. Il n'y a pas moyen de former une dénomination. Il n'y a qu'un seul moyen d'être en ordre, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'expérience que vous avez faite doit correspondre avec cette parole. Voyez-vous? Alors vous l'avez. Voyez-vous? Par exemple, quand nous arrivons là, dans quelques minutes, nous aurons affaire avec des gens dont certains sont foncièrement calvinistes, d'autres foncièrement arminiens et de tendances différentes. Or, il y a toujours, peu importe que vous le coupiez fin, il y a toujours deux côtés à cela, exactement. Et les deux ont des points à débattre. Mais la question à ce sujet, c'est où se trouve la vérité? C'est là que nous allons venir et que nous pensons, par la grâce de Dieu, pouvoir vous montrer la vérité à ce sujet. Maintenant, prenons simplement, et c'est là que j'ai inscrit certaines doctrines de leurs églises. Maintenant, ouvrons tous nos Bibles un instant et allons dans Apocalypse chapitre 1er, ou plutôt, commençons par Apocalypse chapitre 17. Commençons à lire afin de découvrir où ces églises ont commencé et quel en fut le point de départ. La Bible avertit de tout à l'avance. Elle avertit du temps dans lequel nous vivons. Et maintenant, si vous le voulez bien, lisons dans Apocalypse chapitre 17. J'ai dit 13, mais ce n'était pas ce que je voulais dire. Cela traite de, nous y arriverons dans un moment, c'est au sujet de la prophétie se rapportant aux États-Unis. Mais maintenant, écoutez très attentivement. Puis, un des anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Maintenant, souvenez-vous, ceci paraît mystérieux. Cette femme de mauvaise vie. Or, si nous voulons enseigner ceci, nous devons premièrement découvrir ce que veulent dire ces symboles. Une femme dans la Bible représente une église. Combien le savent? Nous sommes une épouse. L'église est une épouse. Viens, je te montrerai le jugement. Un jugement sera prononcé contre la grande prostituée. La femme impure qui est assise sur les grandes eaux. La femme représentant une église et l'eau représentant des gens. Si vous faites attention, regardez aussi au verset 15, pendant que vous y êtes. Au verset 15 du même chapitre. Elle me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voyez-vous? Cette grande église, cette femme importante, maintenant souvenez-vous qu'elle est une femme de mauvaise vie. Et si la femme représente l'église, et que l'église de Christ est une épouse sainte, alors voici une femme impie. Cela devrait être une prétendue épouse qui est impie. Voyez-vous? Et que fait-elle? Elle est assise sur, ou elle est au-dessus, ce qui veut dire avoir l'autorité sur de grandes eaux. En d'autres mots, elle a la puissance dans toutes les nations, les langues et les peuples. Cette femme est une personne importante. Maintenant, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Des hommes riches, importants, ont... Comment pourriez-vous vous livrer? Comment un roi peut-il se livrer à l'impudicité avec une église? C'est de l'impudicité spirituelle. Qu'est-ce que l'impudicité ou fornication? Eh bien, c'est lorsqu'une femme est infidèle à son mari. Elle vit avec un autre homme alors qu'elle a un mari. Et cette église prétend être l'épouse de Christ alors qu'elle se livre à l'impudicité avec les rois du monde à travers sa vie impure, sa profession impure. Oh, c'est profond et c'est riche. Comme j'aime la parole. Maintenant, remarquez. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Son vin, c'est ce qu'elle distribuait, sa stimulation. Nous sommes l'Église, nous sommes ceux qui l'avons, voyez-vous? Maintenant, retenez ceci dans votre esprit. Très bien. L'ange dit à Jean, « Je te montrerai le jugement qui va venir sur cette grande Église. » Maintenant observez. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. L'écarlate dans la Bible représente la royauté. La couleur écarlate veut dire rouge. Et une bête représente une puissance. Avez-vous remarqué la bête qui sortait de la mer? C'était, et dans Apocalypse chapitre 13, quand vous voyez la bête qui sort de la mer, cela veut dire que cette puissance a surgi parmi les gens. Mais dans Apocalypse 13, lorsque cet agneau apparut, il montait de la terre. Pas des gens, les États-Unis. Mais ensuite, il eut deux petites cornes, les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Puis il reçut de la puissance et parla comme le dragon avant lui. Vous devez noter cela. Nous approchons d'une persécution religieuse, avec les mêmes choses qu'ils avaient il y a de nombreuses années dans la Rome païenne, car c'est ainsi dit le Seigneur. Elle était assise sur une bête, une puissance. Avez-vous remarqué Rebecca? Rebecca, lorsqu'Eliezer la trouva, c'était vers le soir, et elle donna à boire au chameau, parce qu'Eliezer avait dit, « La jeune fille qui viendra et donnera à boire à ce chameau sera celle, elle me donnera à boire, sera celle que tu as choisie, Seigneur, pour être l'épouse de ton serviteur Isaac. » Et tandis qu'il était encore en prière, Rebecca arriva, puisa de l'eau et lui donna à boire, ainsi qu'au chameau. Remarquez, le chameau était une bête, et la bête à laquelle elle donna à boire fut celle qui la transporta vers son époux, Isaac. Et aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit, à laquelle l'Église donne à boire et qu'elle adore, est ce qui la transportera de cette terre pour aller à la rencontre de son époux. Assurément, c'était le soir quand Isaac était dehors dans les champs. Nous ne rencontrerons pas le Seigneur dans la gloire. 1 Thessaloniciens chapitre 4 dit que nous le rencontrerons dans les airs. Oh, cela ferait pousser des cris à un méthodiste. Pensez-y. Voyez-vous, le Seigneur, Isaac était sorti de la maison de son père. Elle était dans les champs lorsqu'il vit Rebecca arriver sur le chameau. Et elle l'aima dès qu'elle le vit. Elle sauta du chameau et courut à sa rencontre. C'est vrai. C'est là que nous rencontrons le Seigneur. Et le chameau auquel elle avait donné à boire fut celui qui la transporta vers son mari. Et la puissance que l'Église adore et que le monde appelle du fanatisme sera la puissance qui enlèvera l'Église pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Le Saint-Esprit, voyez-vous, il y a, et regardez, Rebecca était vierge. Tandis que cette femme dont nous parlons est une prostituée. Maintenant, avez-vous compris ce qu'est la puissance? La puissance, cela veut dire que la bête, elle était sur une bête écarlate. Maintenant, quel genre de bête pourrait bien être écarlate? Ce serait une puissance riche. Maintenant, quel genre d'église sera-ce? C'est une église riche, une grande église, une église puissante, dont l'influence domine des foules et des peuples, et les rois de la terre se sont livrés à de l'impudicité spirituelle avec elle. Ce sont les grands hommes de la terre. Maintenant, nous allons découvrir dans un instant qui elle est et ce qui en est de ces dénominations. Et cette femme était vêtue de pourpre, à la façon d'un roi, elle était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Qu'avait-elle dans la main? Sa doctrine qu'elle distribue aux gens. Nous sommes l'Église, nous sommes ceci. Elle fit en sorte que les rois de la terre s'enivrent avec elle. Nous sommes ceci, nous sommes les grandes puissances, nous balayons toutes les nations. Nous sommes la plus grande Église. Venez, buvez de notre. Versez-en un petit peu, prenez-le, prenez-le, c'est cela, voyez-vous? Elle tenait dans sa main une coupe, regardez, Et cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Maintenant, mes amis, nous ne sommes pas en train de lire un journal. Nous lisons la parole de Dieu éternel et béni. Les cieux et la terre passeront, mais cette parole demeurera. C'est vrai. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Tenez, il y a quelque temps, je ne crois pas que c'est dans cette église, j'ai prêché sur le sujet l'écriture sur la muraille, et j'ai présenté l'aspect historique de Babylone. Or, tous les ismes qui ont surgi, toutes les religions et tous les ismes qu'il y a aujourd'hui dans le monde ont commencé dans la Genèse. Si vous prenez les deux Babylones de Houses ou certains de ces bons livres et que vous voulez consulter l'histoire, vous pourrez retrouver tous les ismes que vous voulez. Je vous y emmènerai dans quelques minutes au sujet des femmes prédicateurs, voyez-vous, et je vous montrerai où cela a commencé, soit dans la Genèse. Je vous montrerai comment ces différentes choses sont sorties de la Genèse. Genèse signifie le commencement. Combien savent que c'est juste? La Genèse est le commencement. Ainsi, tout ce qui existe dut avoir un commencement. Quand je regarde un arbre, je suis resté dans les bois environ 2 mois. Quand je vois un arbre, j'admire sa beauté. Je le vois tomber et un autre venir à sa place. La vie perpétuelle. Je pense à cela, mais quelque part, cet arbre eut un commencement. Il dut avoir un commencement. Et le seul moyen pour lui d'être appelé un arbre, que ce soit un chêne, un hêtre, un peuplier, un palmier ou autre, c'est qu'il devait y avoir une intelligence supérieure là-derrière. S'il n'y avait eu qu'un chêne, il n'y aurait eu dans le monde que des chênes. Mais quelque chose, une grande intelligence supérieure, dut mettre cela dans l'ordre. Béni soit son saint nom, c'est lui qui a placé la lune, les étoiles et le système solaire. Il a tout placé dans l'ordre. Elle placera son église dans l'ordre. Elle tournera comme il le désire, que cela soit à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud, que nous aurons pu faire sortir de notre esprit ces idées dénominationnelles et que nous serons jetés entièrement au pied du calvaire. Il la placera dans l'ordre. Si nous sommes simplement prêts à être soumis comme les arbres et le reste de sa création. Vous n'avez jamais vu la lune dire, je ne vais pas briller ce soir, que certaines de vous étoiles brillent à ma place. Mais nous, oh, nous sommes différents, vous voyez. Maintenant, Babylone. Observez de quelle façon Babylone apparaît. Elle apparaît au commencement de la Bible. Elle apparaît au milieu de la Bible et elle apparaît à la fin de la Bible. Il y a quelque chose. Elle commença avec Nimrod. Nimrod fonda Babylone et la vallée de Shinéar, qui se trouve entre le Tigre et l'Euphrate. L'Euphrate la traversait et chaque route de tout ce pays conduisait directement à Babylone. Et ses portes avaient chacune environ 60 mètres de large. Ses portes étaient faites d'airain. Et quand vous étiez à l'intérieur de la ville de Babylone, toutes les rues conduisaient directement au trône. Aujourd'hui, vous pouvez aller à Rome, et toutes les routes conduiront à Rome. Et il y a une petite Vierge Marie à chaque coin de route, avec un petit Christ dans ses bras montrant la direction de Rome. Voyez-vous? Elle apparaît au commencement de la Bible, elle apparaît au milieu de la Bible, et ici, c'est à la fin de la Bible. Maintenant, je désire continuer à lire pendant quelques minutes, afin que vous puissiez avoir la base de ceci. Voyez-vous très bien. Et je vis cette femme, maintenant observez l'église. Quand vous voyez le mot femme, pensez à l'église. Voyez-vous. Et je vis cette femme ivre du sang des saints. Maintenant, d'où vient le mot saint? Le mot saint vient de consacrer ou sanctifier. Sanctifier. Très bien. Je vis cette femme ivre du sang des saints. Ainsi, si cette femme est l'Église, elle persécute les saints. Et c'est la plus grande Église. Elle a la puissance sur toute la terre. Elle est sur de grandes eaux. Les rois de la terre se livrent à l'impudicité avec elle. Eh bien, qui est-elle? C'est une sorte de mystère. Maintenant, l'esprit va. Vous savez qu'il est censé y avoir 9 dons spirituels dans l'Église. La sagesse, la compréhension, la guérison, etc. est du sang des témoins de Jésus. Il semble qu'il ne se souciait pas beaucoup de ce que Jésus avait dit. C'est ce que l'Église disait, c'est vrai, et c'est correct. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Je fus saisi d'un grand étonnement. Il y avait quelque chose d'étonnant à son sujet. Je fus étonné de voir de quelle manière elle... Maintenant, laissez-moi prendre la place de Jean, essayer d'éclaircir un peu ceci. Voyez-vous, Jean dit, elle est assise là, elle prétend être une église chrétienne. Elle a accès à tout l'argent du monde. Elle a les rois de la terre à ses pieds. Elle est riche. Elle est vêtue tout en couleurs. Comment peut-elle être ivre du sang des témoins de Jésus? Comment peut-elle persécuter les saints? Comment peut-elle tuer les martyrs de Christ? Et pourtant, elle prétend être chrétienne, une église chrétienne. Maintenant, observez. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Ceci est simplement de la lecture. Maintenant, comprenez ceci, ce sera très facile. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit, dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Maintenant, cela doit pincer. Voilà. Vous avez dit, maintenant, remarquez que tous, pas seulement certains, mais que tous les habitants de la terre s'étonneront. Tous s'étonneront. Le monde entier s'étonnera au sujet de cette femme. Il n'y a qu'un groupe qui ne sera pas dans l'étonnement à ce sujet, et ce sont ceux dont le nom se trouve dans le livre de vie de l'agneau. Maintenant, je ferai tout aussi bien d'introduire ceci, parce que nous allons y arriver dans quelques minutes. Voyez-vous, quand leurs dons furent-ils inscrits dans le livre de vie de l'agneau? Dès quand? Le dernier réveil auquel ils assistèrent, le soir où ils allèrent à l'autel, le soir où ils se joignirent à l'église. Je n'essaie pas de vous blesser, mais je vous dis que la Bible déclare que leurs noms furent placés dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde. Amen. Exactement. Ce fut lorsque Dieu, au commencement, vit qu'il enverrait son Fils et qu'il prendrait la place du pécheur. À quel moment le sang du Fils de Dieu fut-il répandu? La Bible dit que son sang fut répandu avant la fondation du monde. Combien savent que la Bible dit cela? Que le sang de Christ fut répandu avant la fondation du monde. Lorsque ce sang fut répandu, le nom de chaque membre du corps fut inscrit avec ce sang dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. De quoi avez-vous tellement peur? Oh, frère, cela ouvre les portes, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, lisons ceci et voyons si c'est juste. Et l'ange me dit, pourquoi? Je crois que c'est le verset 8. La bête que tu as vue... Très bien, c'est cela. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme. Maintenant, nous revenons à cela, mais je veux prendre cette autre chose parce que nous y arrivons. Et aller à la perdition, et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit, dès la fondation... du monde dans le livre de vie. En d'autres termes, il y aura des gens sur la terre qui seront séduits. Car il les séduisit. Et il n'y eut qu'un groupe de gens à ne pas être séduits. ce sont ceux dont le nom se trouvait dans le livre de vie dès la fondation du monde. Nous en parlerons un peu plus loin. Maintenant, remarquez, la femme, l'Église, elle était mystère Babylone. Nous la voyons apparaître par Nimrod. Quel était le dessein de Nimrod? Nimrod fonda une ville et fit en sorte que toutes les autres villes lui paient un tribut. Pouvons-nous voir une telle chose aujourd'hui? Y a-t-il un tel endroit aujourd'hui? Y a-t-il une église qui domine sur toutes les nations du monde? Certainement. Y a-t-il un endroit aujourd'hui qui fasse en sorte que chaque nation lui paie un tribut? Y a-t-il un endroit? Continuons et lisons ce qui suit, juste un peu afin que vous voyez toute l'image. Très bien. En voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Maintenant, combien savent que la sagesse est l'un des dons de l'esprit? Alors, à quel groupe parle-t-il? Il doit parler à des gens dont les dons de l'esprit opèrent dans leur église. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Maintenant, il réunit tout ceci à travers ses âges de l'Église. Faisant sortir le Saint-Esprit, déclarant de quelle manière ses dons se manifesteraient dans les derniers jours. Maintenant, nous avons la manifestation des dons de guérison. Oh, cela va bien. Mais frères, il y a d'autres dons. Ce n'est que l'un d'eux. Ce n'est qu'une chose secondaire. Car voici ici un don beaucoup plus grand. Lequel serait meilleur, le don du Saint-Esprit de la sagesse pour réunir la parole de Dieu et montrer à l'Église quelle est notre position ou simplement le fait que quelqu'un soit guéri? Nous voulons tous être guéris, mais je préférerais que mon âme soit guérie plutôt que mon corps, et ceci en tout temps. Oh là là! Ici, le Saint-Esprit, parlant à travers Jean à Patmos, dit à celui qui a de la sagesse qu'il écoute ceci. Maintenant, une image est en train de se dessiner. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. À ma connaissance, il n'y a qu'une ville dans le monde. Il y a à ma connaissance deux villes situées sur sept montagnes ou davantage. Cincinnati est l'une d'elles où il est censé y avoir l'histoire inventée de Cincinnati, la mère Lou, etc., mais elle contient davantage que cela. Cependant, il n'y a pas d'église particulière qui domine Cincinnati. Il n'y a qu'un endroit au monde où se trouve une église assise sur cette colline et qui domine le monde entier. J'en viens justement. Toutes ces choses. Et j'ai vu où il est dit, c'est ici la sagesse, Apocalypse 13, que celui qui a de la sagesse calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, pas d'un groupe d'hommes, mais d'un homme. Et son nombre est 666. J'ai souvent entendu dire qu'au-dessus du trône du pape de Rome, il est écrit Vicarius Filii Dei. Je me suis souvent demandé si c'était vrai, mais tirez une ligne et reportez-en les chiffres, reportez-le en chiffres romains, et voyez ce qu'il en est. C'est l'exacte vérité. Je me suis tenu à cette distance de la tiare du pape qui était derrière un verre, la juridiction de l'enfer, du ciel et du purgatoire. Voyez-vous, ainsi ces choses, je viens justement de là-bas, je reviens de Rome et je sais que c'est la vérité. Maintenant nous savons que c'est des pains. Et ici, des sept rois, cinq sont tombés, c'est-à-dire en ce temps-là, un existe, c'en était un qui devait venir, c'était César, l'autre n'est pas encore venu, c'était Néron qui était méchant. Maintenant remarquez comme c'est parfait. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Quelqu'un connaît-il la durée du règne de Néron? 6 mois. Il traîna sa mère dans les rues par le palonnier d'un cheval. Il incendia la ville et mit cela sur le dos des chrétiens, et joua de la lyre sur la colline, alors que la ville brûlait. 6 mois représentent, voyez-vous, et la bête, maintenant observez, regardez le fripon que c'était, observez, et la bête qui était et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi. Elle est du nombre des sept, Elle a la nature du septième. Elle va à la perdition. Est-ce que quelqu'un sait ce que la perdition veut dire? C'est l'enfer. Et regardez d'où il est monté. De l'enfer. Qu'est-ce? L'abîme. Il n'y a point de fondement pour la doctrine catholique. Il n'y a pas de Bible pour la doctrine catholique. Il n'existe pas de Bible pour aucune doctrine catholique. Pas une. Ils ne le prétendent pas. Le prêtre là-bas m'a dit, ce petit prêtre ici à l'église du Sacré-Cœur, je suis allé là-bas, il m'a dit, oh, je lui parlais du baptême de Mary-Elisabeth Frazier. Oh, dit-il, vous l'avez baptisé à la manière de l'église catholique primitive. Quand était-ce? Lui demandai-je. Il répondit, dans la Bible, votre Bible. Je dis, l'église catholique baptise-t-elle? Est-ce l'enseignement de l'église catholique? Oui, et je dis, et qu'en est-il de l'infaillibilité de l'église catholique? Pourquoi cela change-t-il tellement? Voyez-vous, il répondit, eh bien, vous voyez, vous tous croyez la Bible, nous, nous croyons l'Église. Voyez-vous, peu nous importe ce que dit la Bible, c'est ce que l'Église dit. C'est tout à fait cela. Si jamais vous en arrivez à jouer carte sur table à ce sujet, essayez une fois, vous verrez. Peu nous importe ce que dit la Bible, cela n'a rien à voir avec cela. Il se soucie de ce que dit l'Église, voyez-vous, mais nous, nous ne nous soucions pas de ce que dit l'Église. Nous croyons ce que Dieu dit. Amen. Car dans la Bible est écrit que toute parole d'homme soit mensonge et la mienne la vérité. C'est pour cela que nous ne sommes pas une dénomination. Maintenant, écoutez ceci une minute. Cinq rois sont tombés. Cinq rois. Si vous voulez le récit historique à ce sujet, je vous le montrerai. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Maintenant, observez la bête. La bête n'était pas un roi. Elle était celle qui était, qui n'est plus et qui reparaîtra. Qui n'est plus, qui reparaîtra et qui n'est plus. Qu'est-ce? Une succession de papes, une puissance, une bête qui dirige. C'est à l'époque où la Rome païenne se convertit pour devenir la Rome papale. La Rome païenne se convertit et devint ensuite la papauté, qui fit qu'ils eurent un pape au lieu d'un roi. Et le pape est le roi spirituel. C'est la raison pour laquelle il est un roi spirituel et couronné qui prétend être le vicaire de Jésus-Christ. Vous y êtes. Maintenant remarquez. Nous allons faire sortir de là cette doctrine catholique et vous montrer de quelle façon elle s'est frayée un chemin jusque dans les églises protestantes. Voyez-vous, maintenant, on retrouve encore dans les églises protestantes de nombreuses choses qui sont tout à fait contraires à la Bible. Absolument contraires. Une bête qui était et qui n'est plus. Maintenant, souvenez-vous que tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dès la fondation du monde seront séduits. Voyons, et la bête qui était et qui n'est plus, au verset 11, est elle-même un huitième roi. Elle est du nombre des sept, elle va à la perdition. Elle continuera ainsi jusqu'à ce qu'elle tombe dans l'abîme à la fin de la route. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois. Maintenant, soyez attentifs. Si vous voulez voir quelque chose de percutant, observez ceci. Ce sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ce ne sont pas des rois couronnés, ce sont des dictateurs. Voyez-vous, ils ne furent jamais des rois couronnés, mais ils reçoivent autorité comme rois pendant une heure dans le règne de la bête. C'est cette époque de ténèbres actuelle où des dictateurs apparaissent. Voyez-vous, ils reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Bon, très bien. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra.
Amen.
Gloire! Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois.
Amen.
Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Je souhaiterais voir prêcher maintenant un sermon là-dessus. Les élus avant la fondation du monde, qui demeurent fidèles dans leur appel. Alléluia! C'est cela. Ils sont appelés les élus et les fidèles. Et est une conjonction, voyez-vous. Les élus et les fidèles le vaincront aussi. Peu importe l'ampleur qu'ils prennent, et ce grand mouvement communiste que nous avons aujourd'hui, ne vous en inquiétez pas. Cela travaille exactement dans la main de Dieu. Je peux vous le trouver par cette Bible. Il la fera souffrir pour chaque martyr qu'elle a tué. Oui, monsieur, observez ces rois. Ces rois sont d'accord entre eux, et ils haïront cette bête. Et le pays entier, le monde entier, balayé par le communisme. Il doit y avoir une action de Dieu pour la punir. Vous dites, attendez une minute, frère Branham, le communisme, une action de Dieu? Absolument. C'est assurément une action de Dieu. La Bible dit, cela pénètre pour prononcer un jugement contre des gens impies, ignobles et illégitimes. Que reste-t-il dans ce monde? Qu'avons-nous? Par exemple, l'autre jour, je vais arrêter mon sujet une minute, si c'est possible. Je lisais un passage des Écritures où il est dit qu'un enfant illégitime ne devait pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 14e génération. Combien le savent? C'est vrai. Deutéronome 23. Un enfant illégitime, si une femme est surprise dans les champs, alors qu'elle est hors de la protection des hommes et que cet homme lui fasse violence, il devra l'épouser, même si elle devient une prostituée. Il devra vivre avec elle jusqu'à sa mort. Et si cette femme l'épouse, prétendant être une vierge, alors qu'elle ne l'est pas, elle sera mise à mort pour cela. Et si un homme et une femme qui ne sont pas mariés mettent au monde un enfant illégitime, celui-ci n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 14e génération. Et 40 ans représentent une génération. Il faudrait donc 400 ans pour que ce péché soit sorti d'Israël. Dieu est le péché. Comment pensez-vous pouvoir rentrer simplement parce que vous appartenez à une certaine dénomination, alors que vous foulez aux pieds le sang saint du Seigneur Jésus? Vous devez venir en vous conformant aux exigences de Dieu, sinon vous ne pouvez pas venir du tout. C'est vrai. Que nous soyons diacres, prédicateurs ou autres, cela n'a rien à voir. Vous venez selon les exigences de Dieu. 14 générations. La personne qui discutait de cela avec moi est ici présente. Elle dit, alors comment savons-nous qui sera sauvé? Je répondis, c'est là que vous devriez être un bon calviniste. Votre nom fut écrit dans le livre avant la fondation du monde. Dieu suit cette lignée du sang. C'est son affaire, voyez-vous? Mais ce qu'il y a, écoutez-vous, jeunes gens, aujourd'hui. Je sais que si vous venez à cette église, ou je ne sais si vous venez à cette église, ou d'où vous venez, vous garçons et filles. Mais réalisez-vous que les choses que vous faites maintenant, s'il y a une autre génération, vos enfants seront jugés pour vos actions? N'avez-vous pas le respect de la décence? Vous filles qui portez de ces petits shorts et autres, savez-vous que cela se réfléchit sur votre fille? Saviez-vous que votre grand-mère aimait danser? Et votre mère, une fille de music-hall? Et c'est la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui une stripteaseuse? Certainement. Que seront vos enfants? Oui, monsieur. Dieu a dit qu'il ferait retomber l'iniquité des parents sur les enfants et sur les enfants de leurs enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Réalisez-vous, mon frère, que chaque fois que vous faites ce qui est juste, cela retombera sur vos enfants? Regardez ici. Prenons Hébreux chapitre 7. La Bible dit que lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham, qui revenait de la défaite des rois, il le bénit. Et au sujet du paiement de la dîme, il est dit que Lévi avait l'ordre de l'Éternel de recevoir les dîmes de ses frères, et que Lévi, qui reçut les dîmes, paya la dîme. Car il était encore dans les reins d'Abraham lorsque celui-ci rencontra Melchisédek. Et Abraham était son arrière-grand-père. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Lévi. Lévi, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. Et alors que Lévi était dans les reins d'Abraham, la Bible dit qu'il paya la dîme à Melchisédek. Alléluia! Ne laissez personne vous dire qu'un quelconque mouvement dans le monde peut venir contrarier la grande roue dentée de Dieu. Elle continue à tourner. C'était prévu déjà au commencement. Il n'y a pas de démons, suffisamment de démons, pour venir contrecarrer son programme. Or, la Bible ne dit pas que potentiellement il la paya. La Bible dit qu'il paya la dîme, alors qu'il était dans les reins de son arrière-grand-père. Gloire! C'est cela, mon Seigneur! Oh, il savait cela, avant même que le monde soit formé! il connaissait toutes choses. Et en Abraham, il paya la dîme. Frères et sœurs, comment pouvez-vous aller courir avec les femmes d'autres hommes, et vous femmes, briser des foyers, vivre comme vous le faites? Que pensez-vous que sera une autre génération? Voici ce qui en est. C'est devenu maintenant rien d'autre qu'un tas de corruption illégitime, né dans le gâchis. Il ne reste plus qu'une chose pour cela, et c'est l'époque atomique à laquelle nous vivons. Exactement, nous sommes à la fin des temps. Assis ce matin-là, tout là-bas dans les collines du Kentucky, se trouvait un jeune garçon. Vous pouviez difficilement vous approcher de lui à moins de 3 mètres. Il préparait de la mélasse de sorgho. Probablement qu'il ne savait même pas reconnaître sa main droite de la gauche. Quand il entendit, j'étais entré sur un terrain privé, je ne savais pas où je me trouvais. J'étais dans de petites vallées où j'étais allé chasser l'écureuil. Et quand je me suis assis et j'ai commencé à lui parler, ce garçon me raconta qu'il allait partir au service militaire et on en vint à parler du Seigneur. Elle me dit, prédicateur, ne croyez-vous pas que nous sommes à la fin des temps? Tout là-bas, au fond des montagnes. Je répondis, nous y sommes assurément. Assurément, fils. Nous sommes à la fin des temps. Nous en sommes là. C'est le temps dans lequel nous vivons, frères. Nous sommes à l'endroit. Ne pouvez-vous pas voir comment les mères et les pères ont vécu dans nos grands-pères et nos grands-mères? Ne pouvez-vous pas voir de quelle façon papa et maman ont vécu? Ce n'est pas étonnant que nous soyons dans la corruption aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant que vous puissiez prêcher à en perdre haleine et qu'ensuite ils continuent à porter des shorts et à vous cracher au visage. Ils fumeront des cigarettes et souffleront la fumée contre vous en disant « Occupez-vous de vos propres affaires. Pourquoi ?» Parce que c'est la tribu d'où ils sont sortis. Je vais bientôt venir à cette semence du serpent et nous allons voir où elle entre. Voyez-vous pourquoi ils agissent comme cela? Ce sont les enfants du diable depuis la fondation du monde. C'est vrai. Et nous sommes, il ne reste rien pour nous. Il ne reste plus que le jugement. Il ne peut y avoir rien d'autre que le jugement. Dieu va frapper le tout. Et ce sont les hommes qui le font eux-mêmes. Ce n'était pas l'intention de Dieu que cela soit ainsi, mais il savait que ce serait ainsi. C'est la raison pour laquelle il a dit qu'il séduirait tous ceux qui vivent à la surface de la terre, à l'exception de ceux dont les noms furent écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Lisons un peu plus loin maintenant. Je crois que nous en sommes au verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Observez ceci maintenant. Ces 10 cornes, ces 10 royaumes, tout prend sa place. Observez ce que sont ces dictateurs. Observez dans quelle direction vont les dictateurs. Où cela conduit-il? Regardez seulement. Citez-moi un dictateur qui ne penche pas vers le communisme. Voyez-vous, elles feront quoi? Ils haïront la prostituée, la femme, l'église. Maintenant observez, maintenant regardez ce qu'ils vont lui faire. Ils haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Ils effaceront cette chose de la carte, aussi vrai que je suis ici. Si nous avions le temps de traiter du sujet qui parle de cette église et de le suivre à travers les Écritures, nous verrions où il est dit, tous les rois de la terre et tous les pilotes et tous les autres se lamenteront, car en une seule heure, Babylone la Grande aura été détruite. En une seule heure, sa fin est arrivée. Et je dis, et vous les saints et les prophètes, réjouissez-vous, car Dieu a fait justice en faisant retomber le sang des saints et celui de vos frères sur elle. Voyez-vous, c'est vrai, assurément, le communisme est un outil de la main de Dieu comme le fut le roi Nebuchadnezzar lorsqu'il vint prendre ces juifs qui s'étaient éloignés de Dieu. Le péché peut continuer à se corrompre. La semence du juste peut rester là. La semence peut continuer à se corrompre, à se corrompre et à se corrompre, jusque bientôt elle arrive au bout. Si l'on arrive au point où parce que leur mère et leur père ont vécu ainsi avant nous, il ne nous reste plus rien. Et vous savez ce que Jésus a dit, que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Pouvez-vous le voir? Pouvez-vous voir pourquoi nous avons ces... Je ne critique pas. Mais c'est Arthur Gottfried et les autres, vous savez, même Elvis Presley, avec ses pantalons à taille très basse, et ses cheveux qui leur tombent en bas le cou, et toutes ces choses que font les adolescents. Qu'est-ce qui en est la cause? Qu'est-ce? C'est parce que cela vient de gens illégitimes qui ont vécu avant. Il ne reste rien. Oh, ils se lèveront et chanteront « Mon Dieu, plus près de toi, comme un île, cueilleur de pois, tous les autres, comme cela qui chante un jour de cantique. » Frère, vous savez quoi? C'est absolument de l'hypocrisie. Oui, monsieur. Un homme n'a rien à faire à cette chair s'il va danser le rock'n'roll et boogie-woogie et tout ce genre de choses. Il n'a absolument rien à faire là-derrière. Ceci est pour le sacerdoce, les appelés de Dieu. C'est au ministre appelé par Dieu qu'appartient la place ici derrière. Ils n'appartiennent pas à ici s'ils font de telles choses. C'est là qu'est le problème aujourd'hui. Ils ont fait de l'église rien d'autre qu'une loge. Une loge est en ordre si vous voulez faire cela. C'est votre affaire. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une grande différence entre une loge et une église. Oui, monsieur. Si vous voulez faire ces choses dans une loge et avoir toutes ces réceptions, c'est votre affaire. Mes frères, l'église devrait être balayée de la chair jusqu'au sous-sol. C'est vrai. Je ne veux pas dire balayer en y mettant de nouvelles fenêtres, etc. Je parle d'un réveil à l'ancienne mode, envoyé par Dieu, qui fera filer cela dans toutes les directions. Oui, monsieur, c'est comme le fait d'allumer la lumière électrique sur une bande de cafards autour d'un trognon de pommes. Oui, monsieur, ils prendront la fuite quand la lumière apparaîtra. Maintenant, observez. Ils ont un même dessin et donnent leur puissance. J'en suis maintenant plus bas. Les 10 cornes, voilà. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Vous y êtes. Et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Il n'y a pas besoin de faire un dessin, car nous savons que c'est la hiérarchie catholique. Il n'y a pas besoin, si quelqu'un, je le crois aussi fermement que je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit, je le crois tout autant que je crois que je suis un chrétien ici aujourd'hui, que cette hiérarchie catholique est que la cité du Vatican est la cité qui est assise sur les 7 montagnes, la hiérarchie de l'Église et la bête, qui était et qui n'est plus. Elle est Babylone, tout cela est représenté exactement et parfaitement à travers les Écritures. L'Église catholique. Maintenant, voici ce qui va vous choquer. Vous dites, eh bien, vous ne me touchez pas, frère Branham. Mais laissez-moi simplement vous demander quelque chose. Retournons au verset 5. Il y avait sur son front un nom écrit, « Mystère Babylone la Grande, la mère des abominations de... » La mère des prostituées et des abominations de la terre. Qu'était-elle? Une prostitue. Elle était une mère. Quoi? Mère. Mère. Elle avait engendré quelque chose. Une mère de fils. De prostituée. Qu'est-ce qu'une prostituée? Une femme immorale. Qu'est-ce qui l'a rendue immorale? Sa doctrine. Elle prétend être une église chrétienne, mais elle enseigne des dogmes humains. Et là, elle dit qu'elle avait, si elle était la première organisation, alors il semble qu'il y a une organisation qui est sortie d'elle. Elle était la mère des prostituées. Est-ce vrai? Une mère de prostituées. Cela ne pouvait pas être une mère de garçon. Cela ne pouvait pas être une mère, cela devait être une mère de femmes. Et si c'était des femmes, c'était des églises. Maintenant, examinons cela. Qu'est-ce qui sortit de... Oh, quelle était la première organisation? L'Église catholique. Quelle était la deuxième organisation? Luther. Quelle était la troisième organisation? Swingley. Et cela continuait en passant par Calvin, l'Église anglicane, les méthodistes. Qu'ont produit les méthodistes? De là est sorti Alexandre Campbell, et d'Alexandre Campbell est venu John Smith. Alexandre Campbell représentait l'Église chrétienne, et ensuite il y eut 4 ou 5 Églises de Christ, et toutes sortes de petits ismes en sortirent. Puis il y eut l'église baptiste. Beaucoup de ramifications sortirent. Et de l'église méthodiste est sorti premièrement les méthodistes wesleyens. Puis ils se divisèrent 4 ou 5 fois. Puis il y eut une autre sorte de méthodistes. Elles se séparèrent de nouveau. Puis ils arrivèrent aux méthodistes libres. Puis de là, aux nazaréens et des nazaréens aux pèlerins de la sainteté. Et ainsi de suite. Le baptisme se formèrent et cela continua à travers chacune de ces petites branches. Et que firent-ils tous? Ils aboutirent finalement dans la Pentecôte. Et que fit la Pentecôte? La même chose que sa maman. Ils revinrent en arrière et s'organisèrent. Et que sont-ils devenus? Une dénomination. Entrez dans l'une d'elles. La première chose qu'on vous demande, c'est « Quelle est votre doctrine? » Oh, il vous passe au peine fin, voyez-vous. Pour se renseigner sur ce que vous êtes et sur ce que vous croyez. Et frère, si vous n'avez pas exactement les mêmes vues qu'eux, vous êtes immédiatement excommunié. C'est vrai. Et ne pensez pas que parce que vous dites simplement que vous êtes pentecôtiste, que vous êtes en sécurité. Frère, il y aura autant de pentecôtistes en dehors du chemin que sur le chemin. J'en suis sûr. Voyez-vous? Maintenant, toutes ces organisations, s'ils avaient simplement laissé la bénédiction pentecôtiste agir, sans l'organiser, en le gardant simplement dans une confrérie et laissant le Saint-Esprit faire la ségrégation. Le Saint-Esprit sépare. Ananias et Saphira entrèrent une fois dire une certaine chose, et le Saint-Esprit répondit, « Pourquoi avez-vous menti ?» Mais nous disons, « Oh, c'est frère Jones, ne dites surtout rien de mal à son sujet, c'est le meilleur payeur que nous avons dans l'Église. Je sais qu'il a le Saint-Esprit, je l'ai entendu parler en langue, et je l'ai vu crier dans l'Esprit. » Cela n'a pas plus à voir que le fait de verser des poids sur une peau sèche de vache. Voyez-vous, cela n'a rien à voir, cela. C'est Dieu qui juge. C'est lui qui juge, s'il l'est ou s'il ne l'est pas, absolument. Mais nous nous en sommes référés à notre dénomination. Eh bien, nous l'avons mis à la porte des assemblées. Alors, les unitaires l'ont ramassé. Les unitaires l'ont eu quelque temps, puis ils le mirent à la porte parce que ils l'eurent, puis ce fut les Jésus seuls qui le ramassèrent. Les Jésus seuls l'eurent quelque temps, puis ce fut l'Église de Dieu qui le ramassa. L'Église de Dieu de la prophétie le ramassa, puis ce fut le tour du mouvement de Tomlinson. Oh, frère, si ce n'est pas la fin, où est-elle? Et c'est dans la Pentecôte le dernier réveil. Et maintenant, ils ont la flamme bleue, les adorateurs de l'huile, et le sang sur le visage, et... Oh, miséricorde, je ne sais pas où ils en sont maintenant. Ce qu'il y a, c'est que le tout est devenu corrompu. Saviez-vous que la Bible déclare que cela deviendrait corrompu? Saviez-vous que la Bible prédit que ce jour arriverait où même les tables du Seigneur seraient pleines de vomissements? Et il est dit, à qui puis-je enseigner la doctrine? À qui puis-je faire comprendre cela? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle. À qui peut-il enseigner la doctrine? À ceux qui sont sevrés et qui viennent de quitter la mamelle, la maman. Il n'y a pas de femme corrompue dans cette ville qui ne puisse enfanter une fille vierge. Elle l'est quand elle vient au monde. Et elle peut bien aller. Mais si vous ne faites pas attention et que sa mère est cette nature, cette fille, 9 fois sur 10, agira exactement comme sa mère. Et vous savez que c'est vrai. Une femme qui dirige une maison malfamée peut avoir une fille qui, quand elle a 16 ans, peut être aussi pure et morale qu'un lys. Mais si elle reste ainsi, mais ce qui se passe, c'est qu'elle va se mettre à agir comme sa mère. Or, l'Église catholique fut la première vieille prostituée qui apparut, avec des doctrines de sa composition, des superstitions, elle dont la Bible dit qu'elle monte de l'abîme et ira à la perdition. C'est ce que dit la Bible. S'ils enseignent ces doctrines, c'est faux. C'est faux d'après la parole de Dieu. Puis d'elle naquit l'Église méthodiste, une belle jeune fille. Mais que fit-elle? Elle fit demi-tour et se mit à agir comme sa maman. Elle laisse sa congrégation porter des shorts. Elle les laisse fumer des cigarettes. Elle les laisse mal agir sans qu'on ne dise rien à la contre. Leur petit pasteur, à moitié cuit, qui se tient derrière la chaire, a peur de perdre un jour son salaire ou une boîte de biscuits. Laissez-moi vous dire, frère, que je préférerais prêcher l'Évangile en mangeant du pain sec et en buvant de l'eau et dire la vérité à ce sujet. Même si tous ceux de ma congrégation se levaient et partaient, je leur dirais la vérité à ce sujet. Assurément. Que se passe-t-il? Oh, c'est un ticket de repas. Eh bien, vous savez, je suis le pasteur de la plus grande église dans cette ville. Vous, baptistes et méthodistes, qui écoutez un faux prophète. C'est dur, mais tout ce qui enseigne contrairement à cette Bible est un faux prophète. Peu m'importe combien c'est recouvert de poli. C'est une fausse prophétie. C'est vrai. Oh, tout est en ordre aussi longtemps que vous avez votre nom dans le livre. Votre nom peut être dans une douzaine de livres, mais s'il n'est pas dans le livre de vie, vous êtes perdus. Vous pouvez être tout ce qu'il y a de meilleur, vous pouvez être tout ce qu'il y a de plus loyal, pur et moral, cela n'aura rien à voir avec cela. À ce point de vue, Ésaü était un homme deux fois meilleur que Jacob. Il s'occupait de son vieux papa aveugle et tout le reste, tandis que Jacob était un petit chenapon, suspendu au jupon de sa mère. Une petite poule mouillée. Mais Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, avant même qu'aucun ne fût né. Romains 8 le déclare. C'est exact. Dieu sait ce qu'il y a dans l'homme. Il sait aussi ce qu'il y a dans l'Église. Nous vivons du pain de vie, de la parole de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous ne sommes pas une dénomination. Maintenant, je veux vous donner une autre petite illustration que j'ai inscrite ici au sujet de la grande, dans Apocalypse 19, 2. J'ai quelque chose d'inscrit ici. Je veux regarder et voir ce que c'est. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et l'a vengé le sang de serviteur en le redemandant de sa main. C'est la fin de l'Église catholique. Maintenant, nous voulons que vous remarquiez aussi qu'on trouve aussi une dénomination dans les Écritures, que dans la Bible, il n'est jamais parlé de dénomination. Les dénominations sont venues de l'Église catholique. Elle est la première mère des dénominations. Et chaque dénomination est venue. Maintenant, cela va être juste un petit peu blessant. Et cela va devenir un peu plus blessant chaque fois, voyez-vous. Mais je veux que vous voyez que les dénominations ne furent jamais engendrées ou ordonnées de Dieu. Elles furent ordonnées du diable. L'Église de Dieu est... Nous ne sommes pas divisés. Nous formons tous un corps. Nous sommes un en espérance et doctrine, un dans la charité. C'est l'Église du Dieu vivant, peu importe ces choses. Ensemble, nous sommes un. C'est vrai. Qu'il soit méthodiste ou baptiste, frère, s'il est né de nouveau et rempli du Saint-Esprit, il est mon frère. Nous marchons ensemble. C'est vrai. Oui, monsieur. Cela fait aucune différence. Moïse, parfois je regarde autour de moi, on me dit, vous savez cette bande de pentecôtistes fanatiques, frère Branham, pourquoi êtes-vous allé avec une telle bande? Vous savez quoi? Moïse regarda les enfants d'Israël. Il regarda par la même fenêtre que Pharaon. Pharaon les considéra comme une bande de travailleurs de boue. Mais Moïse les considéra comme les élus de Dieu. Il savait qu'ils avaient la promesse. Pourquoi? Il le savait d'après la parole. Et par la foi, avec son pied sur le trône pour être Pharaon, avec tout le monde à genoux à ses pieds, il pouvait être assis là, entouré de belles femmes qui l'éventaient, tandis qu'on lui versait du vin dans la bouche. En tant qu'empereur ou dictateur ou roi du monde, le jeune Moïse, à 40 ans, tenait cela dans ses mains. Mais en regardant vers cette bande de travailleurs de boue, il sut qu'il était l'un d'entre eux. Alléluia! C'est cela. Il sut qu'il était l'un d'entre eux, et uniquement par la foi, il choisit. Chacun doit faire un choix. Vous devez faire un choix. Vous allez faire un choix maintenant. Vous ferez un choix demain matin. Vous ferez un choix demain soir si vous êtes en vie. Vous devez choisir une fois. Frère, il y a longtemps j'ai choisi cette Bible pour dictionnaire. Cette Bible était mon livre de vie. Cette Bible était la parole de Dieu. Cette Bible est la chose d'après laquelle je vis. Cette Bible est la chose près de laquelle je me tiens. C'est pourquoi Moïse regarda les enfants d'Israël. Elle ne dit pas seulement, « Oh, ce sont des gens merveilleux. Je n'ai rien contre eux. Oh non, je ne dirai rien contre eux. » C'est ainsi que font beaucoup de gens aujourd'hui. « Oh, ces pentecôtistes et ces gens qui ont le Saint-Esprit et qui croient dans la guérison divine. Oh, je n'ai rien là contre. » Mais Moïse n'était pas ainsi. Il abandonna l'Égypte. Et devint l'un d'entre eux. Il alla parmi ses frères. Il était l'un d'entre eux. Frères, c'est le chemin que je prendrai. Je prendrai le chemin avec le petit nombre des méprisés du Seigneur, que ce soit une poignée ou autre. Ils ont une promesse, et je vois leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Ce sont mes frères. C'est vrai. Faites votre choix et mettez-vous avec eux. Juste ou faux, restez quand même là. S'ils sont dans l'erreur, aidez-les à venir dans le juste. C'est vrai. Vous ne les ferez jamais devenir meilleurs en les poussant d'un coin à l'autre. Voyez-vous, essayez de les faire sortir. C'est ce qu'ils ont dit de faire Allen au sujet du feu et du sang dans les mains. J'ai dit, je n'ai jamais, jamais manqué d'égard pour Allen. Si je pouvais prêcher comme Allen, je n'aurais même pas de service de guérison. Maintenant, quand il s'agit de sang dans les mains, comme évidence du Saint-Esprit, je ne suis pas d'accord avec cela. Mais quand il s'agit de fraternité, il est mon frère. Je me tiens à ses côtés dans la bataille. C'est vrai, s'il est dans l'erreur, j'essaierai de l'aider. Et s'il n'est pas dans l'erreur, et que ce soit moi qui le sois, je désire qu'il m'aide, et c'est ainsi que nous marchons.
Amen.
Maintenant, observez, elle était Mystère Babylone, la mère des prostituées. Maintenant, voyez-vous, mes amis, comme l'Église aujourd'hui, pouvez-vous voir comment ces églises aujourd'hui vivent n'importe comment? C'est tout à fait bien. Allez-y, continuez. Le porc mange le porc. Il ne s'y intéresse pas. Il n'y a pas de mal à faire cela. Vous essayez simplement d'être démodé. Maintenant, observez leur doctrine. Observez, c'est leur coutume. Vous rendez-vous compte qu'il y a quelques années, l'Église catholique était la seule à qui il était permis d'aller au cinéma? L'Église méthodiste n'y aurait pas pensé. Et toutes les autres dénominations non plus. C'était les œuvres du diable. Eh bien, je me demande ce qui est arrivé. Oui, monsieur. Et vous savez, ces jeunes filles catholiques, on a lancé la mode des... Maintenant, certains de vous, hommes qui êtes aussi âgés que moi, vous vous souvenez lorsqu'on a lancé la mode des robes arrivant à la hauteur du genou? Eh bien, ce gars, je pense, est en enfer ce soir. Je ne sais pas, je ne suis pas son juste, son juge. Mais quand il a fait ce premier chant dégoûtant qui a passé la radio sans être censuré, ce « roulez, petite, roulez, descends-les et montre tes jolis genoux », combien se souviennent quand c'est sorti pour la première fois, il y a des années? Ce fut là la première erreur, c'est vrai. Et lorsqu'ils ont eu cet homme du Texas, et qu'ils ont pris ces femmes et ont utilisé leurs sous-vêtements pour les faire paraître quelque chose qu'elles n'étaient pas, et avec de telles choses, les laisser s'en tirer comme cela? Et maintenant, que s'est-il passé? Cela a commencé à pénétrer. C'est un esprit! Un homme qui me parlait l'autre jour me dit, « Je ne sais pas ce que je vais faire. J'avais un bon et honnête garçon. Et ce garçon s'est mis à prendre tout sur quoi il peut mettre la main. » Je dis, « Pourquoi ?» C'est qu'il est associé avec un voleur. Si vous restez en compagnie d'un voleur, vous deviendrez un voleur vous-même. Ma vieille mère qui venait du Kentucky avait coutume de dire, « Si tu couches avec un chien qui a des puces, tu te relèveras aussi avec des puces. Si vous prenez une femme qui ne vale rien et que vous la mettiez avec un bon garçon décent, bientôt vous verrez qu'elle est aussi corrompue, qu'il est aussi corrompu qu'un petit chien. Et vice-versa, on vous connaît par votre compagnie. Séparez-vous, sortez du milieu d'eux, dit la Bible. Soyez séparés, c'est vrai. Si leur dénomination retourne à une telle corruption, comme le fait de laisser leurs gens... Nous avons entendu dire que dans une grande et bonne église baptiste, l'homme pouvait prêcher seulement 20 minutes et qu'ensuite il devait renvoyer les gens parce que le pasteur devait fumer. Toute la congrégation sortait et se tenait tous dehors pour fumer, puis le pasteur et tous les autres rentraient à nouveau. Je suis allé dans une église congrégationaliste. Il y avait là un homme portant une longue robe qui était appuyé sur la chaire comme ceci et qui parlait d'une espèce de fleur qu'il avait découverte sur une colline. C'était presque tout. Et il ressortit et ses doigts étaient jaunis par la fumée de cigarettes. Oui. Et à propos les femmes, les hommes allaient jouer à... Quel est ce jeu allemand qu'on joue avec ce... où vous distribuez des cartes, vous savez? Je pensais que je m'en souviendrais. Pinocle. Ils allaient jouer au Pinocle. Je crois que c'est où vous distribuez. Ce sont des cartes à jouer, normales. Un jeu de Pinocle dans le sous-sol. Mon Dieu, c'est là que sont ces fondations. Ce n'est pas étonnant. Pourquoi font-ils cela? Et ensuite, ils crient après l'Église catholique qui joue à la loterie sur ces places. Vous, protestants, vous êtes aussi corrompus qu'eux. Ainsi que pouvez-vous en dire? La pelle ne peut pas se moquer du fourgon. Certainement pas. Vous faites cela et vous dites, « Eh bien, je suis presbytérien, je suis méthodiste. Vous n'êtes rien avant d'être né de nouveau. C'est vrai, quand vous faites cela, vous savez, il y a quelque chose en vous qui vous dit que ces choses sont fausses. Et vous en sortirez aussi certainement que le monde existe. Vous savez que c'est la vérité. Certainement. Oui, monsieur, vous êtes d'accord avec ces choses. Pourquoi la mère des prostituées? De nos jours, la vieille mère dira, vous savez quoi? Après tout, ma chérie, nous sommes les deux pareils. Et savez-vous ce qui va se passer? La Confédération des Églises va réunir tout ensemble, comme elle le fait déjà maintenant. Et savez-vous ce qui va arriver à un petit groupe comme celui-ci? Vous allez le payer cher. Exactement. Mais ne soyez pas inquiets, l'agneau la vaincra.
Amen.
Car elle est Seigneur des Seigneurs, et Roi des Rois, et Dieu conduira son Église au lieu d'une dénomination. Il déversera cette huile dorée du Saint-Esprit sur cette Église des frères. Le feu tombera du ciel. Des signes et des miracles se produiront, comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Oui, monsieur, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Oui, monsieur, celui qui persévérera jusqu'à la fin, vous y êtes. Continuez la route, gardez la tête dirigée vers le calvaire. Cette Bible est juste, ne vous en faites pas. Maintenant, regardez certaines de leurs coutumes et morales. Nous pourrions continuer. Bientôt, vous réalisez que cela a sointé dans les églises protestantes. Puis les femmes catholiques commencèrent à, oh, il n'y avait pas de mal à porter de petits shorts aussi longtemps qu'ils allaient à l'église et mettaient un petit foulard sur leur tête. Une espèce de tradition, comme ne pas manger de viande le vendredi. Oh, où allez-vous trouver qu'il faut mettre un foulard sur votre tête pour rentrer dans une église? Je veux que vous le montrez dans l'Écriture. C'est une fausse prophétie. Où est-il dit que vous êtes censé porter un chapeau dans l'église? Quand vous portez un chapeau sur votre tête, vous déshonorez Christ. C'est vrai, je parle des hommes. Vous, femmes, vous avez un voile. Mais je défie quiconque de me montrer où il est dit que c'est un chapeau ou un foulard. Ce sont vos cheveux. Et vous les avez coupés. Maintenant, qu'en dites-vous? Oh, disent-ils, c'est démodé. Si c'est le cas, c'est la Bible. Et la parole de Dieu est juste. Alors que je parlais ici il n'y a pas longtemps de la femme qui lava les pieds de Jésus et prit ses cheveux, vous savez, pour les essuyer, je dis, la seule façon pour qu'une femme puisse le faire aujourd'hui serait de se mettre debout sur la tête, pour avoir suffisamment de cheveux pour lui laver les pieds sans servir pour les essuyer. C'est vrai. Oh, c'est une honte de voir de quelle façon elles se promènent dehors alors qu'ils gèlent avec un petit bout de manteau sur le dos et montrent leur corps nu. Vous direz peut-être, pourquoi critiquez-vous les femmes? Vous avez besoin d'être critiquées. Et vous, hommes, vous laissez vos femmes agir ainsi? Frère, je ne sais pas que penser de vous. C'est vrai. Et vous, pasteur, je ne pense pas que vous soyez ici. Mais si vous en voyez un, dites-lui de venir me voir. Voyez-vous, s'il n'a pas davantage de respect pour Christ que de laisser sa congrégation continuer ainsi sans, il est possible qu'il le fasse derrière son dos. Mais s'il ne leur dit pas, il n'est pas un serviteur convenable pour Jésus-Christ. Exactement. Il n'est pas apte à être un serviteur de Christ. Un serviteur de Christ devrait être intrépide. Car il s'agit de la Bible, certainement. Mais voilà où ils en sont. Ils s'en vont et le font quand même. Puis bientôt les protestants firent de même. Vous, bons méthodistes, et vous, baptistes, et vous, presbytériens, nazaréens, pèlerins de la sainteté, vous tous, la même chose. Vous êtes sortis 6 de l'un et 12 de l'autre. Vous y êtes, une mère de prostituées. Votre dénomination, vous dites aussi longtemps qu'ils ont commencé cela au quartier des généraux, quelle différence cela fait-il? Voyez-vous, cela fait beaucoup de différence. Cela n'a jamais commencé aux quartiers généraux. Il se peut que cela commence à vos quartiers généraux, ici en bas, mais pas à ceux d'en haut. Cela dépend de l'endroit d'où vous venez, c'est vrai. Je ne pense pas que nous ayons le temps maintenant de traiter de celle-ci. Je ferais peut-être mieux de la laisser pour demain matin. Très bien. Prenons simplement celle-ci qui est courte. Nous avons ici le baptême d'eau. Aussi la prédestination. Oh, de nombreuses choses. Ainsi, prenons simplement celle-ci, qui est courte, sur les femmes prédicateurs. Maintenant, madame qui prêchait, je ne veux pas blesser vos sentiments, mais je veux vous dire quelque chose. Vous n'avez pas un brin d'écriture. Pas un seul dans la Bible. Oui, je sais, vous allez en venir, et j'ai eu déjà toutes vos, oui, et vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, si votre pasteur ne sait pas ce que le mot prophétiser veut dire, ce n'est pas sa place d'être derrière la chair pour essayer de vous dire d'être prédicateur. Voyez-vous, parce que c'est tout à fait condamné de la Genèse à l'Apocalypse. Maintenant, laissez-moi vous montrer ceci. Je désire que vous regardiez avec moi dans 1 Timothée 2, 11. Regardez-la et nous verrons ce qui en est. Nous verrons cela et aussi votre acte 2. Écoutez simplement ce que l'Écriture a à dire à ce sujet. Quelqu'un disait continuellement, « Eh bien, frère Branham, vous êtes un vieux misogyne. Je ne suis pas un misogyne. Je n'aime tout simplement pas voir des femmes essayer de prendre une place qui n'est pas la leur. » Vous vous souvenez du chantier de construction navale, Howard, ici, un des chantiers de construction navale le plus prospère sur la rivière de l'Ohio. Ils mirent une femme à sa tête et regardez ce qui est arrivé. Ils ont donné le droit de vote à la femme, regardez ce qui est arrivé. Laissez-moi maintenant vous dire ce que je pense. Je ne tiens pas simplement à critiquer les femmes, car je veux que les hommes comprennent qu'il y a aussi quelque chose à redire d'eux. Mes frères, laissez-moi vous dire quelque chose. Cette nation est une nation axée sur la femme. Je vous le prouverai par l'Écriture et par tout ce que vous voulez. Que figure sur notre monnaie une femme? Où la trouve-t-on ici dans l'Apocalypse? Vous la voyez. Elle porte aussi le numéro 13, de même que tout ce qu'elle a commencé. 13 étoiles, 13 bandes, 13 colonies, 13, tout était 13. Elle apparaît dans le 13e chapitre de l'Apocalypse, une femme 13. Et en 1933, que le Seigneur, à l'époque où nous nous tenions des réunions sur l'emplacement qu'occupe maintenant l'Église de Christ, l'ancienne demeure des francs-maçons, je reçus à cet endroit une vision du Seigneur qui prédisait que l'Allemagne allait s'élever et qu'on allait construire là-bas la ligne Maginot. Beaucoup parmi vous s'en souviennent. Il était dit qu'ils seraient retranchés là-dedans et que les Américains subiraient une grande défaite à ces lignes. Il était dit également ce qui arriverait et ce qui en serait de Roosevelt et ses différentes choses et de quelle manière il serait élu qu'il remplirait cette quatrième période. Tout était parfait et la prédiction se réalisa exactement. Il faut aussi dire que les voitures deviendraient toujours davantage en forme d'œuf et que dans les derniers jours, elles ressembleraient tout à fait à un œuf. J'ai dit que le jour viendrait où ces voitures ne seraient pas dirigées par un volant, mais qu'il y aurait quelque chose d'autre. Ce sont ces voitures qui sont en train de produire maintenant, équipées d'une télécommande pour la sécurité. C'est correct. Vous ne pourrez pas entrer dans une ville et, dans une zone limitée à 30 km à l'heure, vous ne pourrez faire que du 30 km à l'heure. Vous ne pourrez heurter une autre voiture parce que tout cela est télécommandé. Vous voyez, cela se passe ainsi déjà maintenant. J'ai encore dit, souvenez-vous, qu'avant que n'arrive la fin des temps, une femme, maintenant conservez tout ceci par écrit, une femme importante et puissante apparaîtra qui sera soit président ou dictateur ou qu'il y aura une femme importante et puissante ici aux États-Unis et que ce pays sombrera sous l'influence des femmes. Maintenant, souvenez-vous-en, c'est le « ainsi dit le Seigneur ». Voyez-vous, elle est dans l'erreur, et cela prépare le chemin à quoi? Laissez-moi vous le dire, soyez spirituel, soyez réceptif. Regardez, pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Pour permettre à l'Église catholique d'entrer, voyez-vous? Vous adorez ces actrices de cinéma et toutes ces différentes choses. Vous vous souvenez du sermon que j'ai prêché, Maggie, vous vous en souvenez? Il y a des années de cela sur l'invasion des États-Unis et le renversement du gouvernement américain. Et que j'ai dit, il apparut à Paris... Après que nous l'ayons sauvé là-bas de cette femme, du vin et des réjouissances, puis ils introduisit cela là-bas à Hollywood, si bien que maintenant, au lieu que nous allions chercher des modèles à Paris, ce sont eux qui viennent ici en chercher. Quel en fut le résultat? Cela, vous ne vouliez pas laisser vos enfants aller au cinéma, mais il est entré dans la télévision, continue à agir et continue contamina l'ensemble. Il continue ainsi, si bien qu'aujourd'hui, toutes les fillettes et garçons aiment ces acteurs de cinéma. Qu'est-ce? Cela prépare le chemin, mes amis. Une seule femme de mauvaise vie peut envoyer davantage de gens en enfer que tous les débits d'alcool que vous pourriez mettre dans une ville. C'est vrai. Observez-la descendre la rue, à moitié déshabillée. Peu importe l'homme que c'est, s'il est normal et en bonne santé que s'il regarde une femme, il ressentira obligatoirement quelque chose. Maintenant, soyez honnêtes. Peu m'importe, cela fait des années que j'ai le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas regarder une femme qui est à moitié habillée. Je transporte une petite croix dans ma voiture. Beaucoup parmi vous l'ont vue. Quelqu'un m'a dit, êtes-vous catholique? Quand les catholiques ont-ils eu une option sur la croix? La croix signifie chrétien. Ces Sainte Cécile et autres sont une marque de catholicisme. Nous ne croyons pas là-dedans. Nous croyons en Christ. Ils adorent toutes sortes de gens qui sont morts. C'est une forme élevée de spiritisme. Ce n'est rien d'autre que l'adoration des morts. Il n'existe rien de tel, non. Je demandais à ce prêtre, Pierre était-il le premier pape? Il répondit, c'est vrai. Je dis alors, pourquoi Pierre a-t-il dit, il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ homme. Et vous avez 5000 femmes mortes et tout le reste. que vous utilisez comme médiateur. Ainsi, qu'en est-il arrivé? Vous y êtes. Ils n'ont pas de réponse à cela, c'est vrai. Or, certaines de leurs doctrines, de leurs fausses doctrines, une bande de faux prophètes protestants sont venus enseigner cela, et vous, protestants, vous l'avalez. C'est exact. Les dénominations que vous formez, les formes de baptême et les différentes ordonnances que vous pratiquez ne sont absolument pas scripturaires. Les Écritures s'opposent à cela, et cependant vous êtes mis à genoux là-devant. C'est la vérité. Maintenant, écoutez ceci au sujet des femmes prédicateurs. Très bien. Premier épître à Timothée. Je veux prendre 1 Timothée 2:11. Maintenant, écoutez ce qu'il est dit ici. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je ne suis pas responsable pour avoir écrit cela à cet endroit, mais j'ai la responsabilité de vous dire que cela s'y trouve. Vous voyez, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Si une fois vous allez dans une église orthodoxe, observez-les, vous voyez. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni prendre de l'autorité, en étant pasteur, diacre ou quoi que ce soit au-dessus de l'homme. Voyez-vous, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Saviez-vous, maintenant, femme, écoutez, vous qui êtes des femmes chrétiennes et vertueuses, vous êtes la meilleure chose que Dieu ait pu donner à un homme ou il lui aurait donné quelque chose d'autre. Oui, monsieur, voyez-vous, la femme ne se trouvait même pas dans la création originale. La femme n'est pas un produit que Dieu a créé, elle est le sous-produit d'un homme. Dieu fit l'homme à la fois homme et femme, puis il les sépara. Après que l'homme eut déjà vécu sur la terre pendant longtemps et nommé les animaux, Dieu prit une côte dans le côté d'Adam sous forme de sous-produit et en fit une femme. Adam était formé le premier, Ève ensuite. Maintenant observez, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Dieu prit l'homme, le diable prit la femme. Regardez cela en face. Que se passe-t-il aujourd'hui? Regardez la véritable Église de Dieu. Elle dira « Jésus ». L'Antéchrist dira « Marie ». Surveillez ces esprits. Voyez-vous, les voilà. Je vous salue Marie, Mère de Dieu. Vous êtes bénie parmi les femmes et priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Elle reçoit beaucoup de louanges. Oh, mon Dieu, vous voyez, voilà la femme, le sujet du diable. Christ, l'objet d'adoration, est le seul. Vous y êtes, vous y êtes. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui était séduit. Ainsi, comment pourriez-vous avoir une femme pasteur ou diacre? Adam ne fut pas séduit, mais c'est la femme qui fut séduite. En fait, elle ne pensait pas être dans l'erreur, mais elle était pourtant. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Car chaque fois qu'un convoi funèbre descend la rue, une femme en est la cause. Chaque fois qu'un bébé pousse des cris, une femme en est la cause. Chaque fois que quelqu'un meurt, une femme en est la cause. Chaque cheveu gris, une femme en est la cause. Tout ce qui concerne la mort, une femme en est la cause. Tout ce qui est faux, une femme en est la cause. Et ensuite, la mettre à la tête de l'Église, comme pasteur, oh, parfois comme évêque, c'est une honte. Maintenant, passons un instant à un autre passage. Lisons dans 1 Corinthiens 14:32 pour voir ce que Paul dit ici. Puis nous passerons dans un moment à d'autres choses. Cependant, nous ne voulons pas vous garder trop longtemps et qu'ainsi vous soyez trop fatigués demain matin et que vous ne puissiez pas revenir. Très bien. Je veux lire combien croient que Paul était un docteur inspiré. Or, souvenez-vous que Paul a aussi écrit ceci à Timothée. Vous voyez, prenons donc 1 Corinthiens 14:32 et commençons à lire. 14:34, je crois. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Avez-vous entendu ce qu'il a dit? Que les femmes se taisent dans les assemblées, car n'auraient pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Avez-vous une référence dans la marge à ce sujet? Si c'est le cas, consultez-la et voyez si elle ne vous reporte pas à Genèse 3:16, quand Dieu dit à Ève que parce qu'elle avait écouté le serpent, plutôt que son mari, celui-ci dominerait sur elle tous les jours de sa vie. Ainsi, comment la femme peut-elle venir dominer sur l'homme, être pasteur ou diacre, alors que la Bible déclare qu'elle doit être soumise, comme ce fut le cas au commencement lorsque Dieu Dieu ne peut pas changer. Vous ne pouvez pas faire dire une chose dans la parole ici et une autre chose là. Cela ne marche pas. C'est la même chose tout le temps. Ainsi, au commencement, c'est là que, avant de terminer ceci, je désire, si j'en ai la possibilité, mettre au point pour vous cette question de mariage et divorce. Je ne l'ai pas encore fait pour cette Église. Observez l'alliance double. L'un dit qu'elle peut se marier, un autre qu'elle ne peut pas se marier, etc. Attendez juste un moment, et vous verrez ce que la Bible déclare quand nous y arriverons. Vous voyez? Très bien. Maintenant, regardez ici. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Par conséquent, dans l'Ancien Testament, elles n'avaient pas la permission de parler, parce que Paul le dit ici, n'est-ce pas vrai? Que les femmes se taisent, qu'elles soient soumises. Maintenant, si vous voulez consulter votre référence ici, elle vous reportera à Genèse 3:16. Vous voyez très bien. Selon que le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Quoi? Maintenant, regardez ce point d'interrogation qui figure dans chacune de vos Bibles, à la fin de la phrase suivante. Pour quelle raison Paul a-t-il dit cela, et l'a-t-il établi ainsi? Si une fois vous procurez les lettres que les Corinthiens ont écrites à Paul, vous pouvez les trouver dans n'importe quelle bonne bibliothèque. Que les Corinthiens ont écrites à Paul, vous verrez qu'ils lui parlèrent de ces femmes qui se sont converties. Ils avaient là-bas une déesse appelée Diane. Elle était aussi à Éphèse. Les Corinthiens l'adoraient également parce que c'était une adoration païenne. Un jour, ils découvrirent une pierre dans les champs qui ressemblait à une femme et dirent « Dieu est une femme. Elle a laissé tomber son image jusqu'à nous. » Leur temple était beaucoup plus somptueux que le temple de Salomon, nous disent les historiens. Oh, il était entièrement fait de marbre, recouvert d'or, tandis que le temple de Salomon était fait de cèdre, recouvert d'or. Vous voyez, il était bien plus somptueux. Et ce, par conséquent, si Dieu était une femme, assurément qu'elle aurait des prêtresses. Naturellement, si Dieu est une femme, alors la femme prédicateur est dans ses droits. Mais Dieu est un homme. La Bible dit qu'il était un homme et il est un homme. Si Dieu est un homme, cela devrait être des hommes. Maintenant, remarquez ici ce qui en est. Or, certaines de ces prêtresses, quand elles se furent converties du paganisme au christianisme, pensèrent qu'elles pouvaient tout simplement conserver leur fonction de prédicateur. Si elles avaient prêché là-bas sur Diane, elles pouvaient venir ici et prêcher sur Christ. Paul dit, quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Frère, écoutez ceci. Comment des serviteurs peuvent-ils faire cela? Verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, il n'est pas même nécessaire qu'il soit un prophète, mais simplement un homme inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Le croyez-vous? Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. C'est tout ce qu'il y a de plus clair et direct. Vous voyez? Il dit, si quelqu'un est inspiré, ou prophète, il reconnaîtra que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Mais il ajouta, si quelqu'un est ignorant, qu'il soit ignorant. Ainsi, la seule chose que vous puissiez faire, c'est que s'ils veulent continuer à agir ainsi, de les laisser aller, parce qu'il l'a vu commencer à cet endroit. Une femme m'a dit, « Oh, Paul n'était qu'un vieux misogyne. » Ce n'était pas un misogyne. Vous savez que Paul était l'apôtre à l'Église des Nations. Regardez ici. Saviez-vous que Paul, combien croit que c'est ce que Paul a prêché? Et que c'est ce qu'il a dit ici? Paul déclara, vous dites, eh bien, attendez une minute, frère Branham, une minute. Notre évêque dit que c'est en ordre. Le surveillant général des assemblées dit que c'est en ordre. L'évêque unitaire dit que c'est en ordre. Peu m'importe ce qu'ils disent. C'est faux! Je vous ai prévenu que j'allais faire pénétrer ceci fortement. Et ce sont de faux prophètes qui disent de telles choses. Car la Bible déclare, si quelqu'un croit être inspiré au prophète, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si son esprit ne rend pas témoignage à cette parole, il est un faux prophète pour commencer. Je préférerais être un misogyne qu'un amateur de femmes, plutôt que de permettre et de supporter de telles choses dans l'Église de Dieu qui sont contraires aux préceptes de Dieu. Et Paul dit, prenez Galates 1:8. Paul déclare, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Maintenant, qu'allez-vous faire de cela? Maintenant, vous dites, qu'en est-il de l'endroit dans Joël où il est dit que vos fils et vos filles prophétiseraient et que Pierre a cité le jour de la Pentecôte. C'est exact. Mais saviez-vous que dans l'Ancien Testament, le seul moyen pour quelqu'un d'entrer dans l'Alliance, et c'est encore ainsi maintenant, Abraham fut celui qui reçut la promesse, et le sceau de la promesse était représenté par la circoncision. Combien le savent? C'était la confirmation de Dieu. Par exemple, un frère baptiste me dit, « Frère Branham, nous, baptistes, avons reçu le Saint-Esprit. » Je lui dis, « Quand l'avez-vous reçu ?» Il répondit, « Lorsque nous avons cru. » Je dis, « Paul déclara, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Et j'ajoutais, « Maintenant, vous, baptistes, venez chercher un peu de cela, et nous parlerons un peu de la sécurité éternelle avec vous. » Je dis, « Mais où trouvez-vous une telle chose ?» Vous voyez, Paul dit, « L'avez-vous reçu après avoir cru ?» C'était des croyants qui avaient poussé des cris de joie et tout le reste, mais qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est ce que dit Paul. Vous voyez, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ils répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, nous avons été baptisés, mais faussement. Voyez-vous? Ainsi, ils durent être rebaptisés. Très bien. Maintenant, remarquez ceci. Lorsque ces femmes prédicateurs vinrent, elles voulurent user de leur autorité, mais cela leur est absolument interdit par Dieu. Laissez-moi encore dire ceci au sujet des femmes, alors que nous en sommes sur ce sujet. Il est dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. C'est la raison pour laquelle ce tabernacle ne soutient pas et n'ordonne pas de femmes prédicateurs, de femmes diacres, et ne requiert d'une femme aucune activité en tant qu'office de cette Église. Car cette Écriture se trouve là, et elle est claire. Cependant, la Bible dit effectivement, « Vos fils et vos filles prophétiseront. » Or, que signifie le mot « prophétiser » Cherchez-en la définition. Cela signifie dire quelque chose par inspiration ou prédire quelque chose. C'est un mot composé, de même que sanctifier veut dire être nettoyé et mis à part pour le service. Voyez-vous, c'est un mot composé qui signifie plusieurs choses. Nous en avons beaucoup d'exemples en anglais. Par exemple, nous pourrions prendre le mot « cours », C-O-U-R-S. Eh bien, quelle serait sa signification? Vous dites, cela signifie qu'il s'agit d'un cours d'eau. Non, ce n'est pas cela. Alors, ça veut dire qu'il s'agit du cours de la bourse. Non, ce n'est pas cela non plus. Eh bien, ça veut dire « cours », du verbe « courir ». Vous voyez, pour savoir le sens du mot, vous devez connaître le contexte. Vous voyez, et c'est ainsi pour ceci, ce mot composé pour dire que vos fils et vos filles prophétiseront. La seule façon pour que Dieu... Ce baptiste dit, « Eh bien, nous avons reçu le Saint-Esprit lorsque nous avons cru cela. » Abraham crut à Dieu. C'est ainsi qu'il l'a dit. Il dit, « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Combien savent que c'est la vérité? Maintenant, regardez avec quelle facilité Satan peut faire croire cela, un frère. Vous voyez, c'est vraiment facile. Or, c'est ce que dit l'Écriture. Frère, laissez-moi vous dire que vous devriez être loin avant de venir à cette chair. Vous devriez aller dans un lieu secret et prier. Les gens disent, pourquoi ne sortez-vous pas voir les gens? Frère, si vous vous apprêtez à parler aux gens ou à les enseigner, vous feriez mieux de rester seul avec Dieu pendant un moment avant de venir à cette chair. Certainement, vous voyez, parce que Satan est rusé, très rusé. Cet homme dit donc, maintenant, remarquez, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est exact. Il ajouta, ainsi qu'est-ce qu'Abraham pouvait faire d'autre que croire? Je dis, c'est tout ce qu'il pouvait faire. Il dit, que pouvez-vous faire d'autre que croire? Je répondis, c'est tout ce que nous pouvons faire. Mais regardez, frère, après cela, Dieu reconnut la foi d'Abraham. Il lui donna le sceau, un signe de circoncision, comme sceau de l'Alliance. Vous voyez? Dieu dit, maintenant Abraham, je reconnais ta foi. C'est pourquoi je vais te donner maintenant un signe montrant que je t'ai reçu. Ainsi, il circoncit Abraham, et c'était le sceau de l'Alliance. Et aujourd'hui, or, une femme ne pouvait pas être dans cette Alliance, à moins qu'elle soit mariée. Regardez-vous-même, on ne pouvait circoncire une femme. Ainsi, cela devait venir. Ainsi, elle et son mari sont un. Ils ne sont plus deux, ils sont un. Combien le savent? L'Écriture le dit. Ainsi, une fois mariée, elle devient un. Regardez ici dans Timothée, et vous verrez qu'elle dit la même chose. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. À ce moment-là, la circoncision de l'Ancien Testament était dans la chair. Mais ici, dans le Nouveau Testament, Joël dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. » Or, le mot prophétiser ne veut pas dire enseigner. Le mot prophétiser signifie soit dire une expérience par inspiration ou prédire quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et nous savons qu'il y avait des prophétesses dans l'Ancien Testament. Cependant, elles ne pouvaient jamais parler ouvertement dans le baptisement, dans les églises ou dans l'assemblée pour enseigner. Mais beaucoup d'entre elles qui se trouvaient dans le temple étaient prophétesses. Marie était une prophétesse ou quelque chose comme cela. Elle avait l'esprit sur elle, c'est vrai, mais elle avait des limitations. Les femmes peuvent être prophétesses aujourd'hui, absolument, mais non pas docteurs, etc., ici derrière la chair. Si vous le faites, vous créez une contradiction dans la Bible. La Bible ne peut pas dire une chose ici et une autre là. Elle doit dire tout le temps la même chose. Ou alors ce n'est pas la parole de Dieu, vous voyez. Alors lorsqu'il est dit que vos fils et vos filles prophétiseront, ça signifie que soit ils prédiront ou témoigneront. Maintenant, regardez-en le sens. Prenez un dictionnaire biblique et voyez si cela n'est pas juste. Vos fils et vos filles prophétiseront. Or, la Bible parle également d'une femme qui prétendait ou se réclamait être... Cela s'appliquerait à l'Église catholique et aussi au sujet dont nous allons parler maintenant. Allons dans le livre de l'Apocalypse et prenons vers le second chapitre et le verset 20 un instant pendant que nous traitons de ce sujet afin que vous puissiez remarquer ici combien cette chose peut être démoniaque alors que nous parlons de ce qui arriverait en ces derniers jours et ce que serait cette femme. Souvenez-vous que l'Église catholique est une femme. Nous venons de le lire, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez ceci, c'est Apocalypse 2, 20. Mais ce que il parle à cette église de Thyatire qui se trouve au milieu des âges de l'église, c'est durant les âges sombres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez? Maintenant, si vous avez fait attention, observez ces âges de l'Église, et ensuite nous terminerons. Puis demain matin, nous traiterons de ces autres choses, et nous verrons ce qui se trouve sur les chandeliers d'or du tabernacle juif, et ce qui se trouve à l'intérieur du pain de proposition. Il y avait 7 chandeliers d'or, comme vous le savez tous, les 7 âges de l'Église, qui parlent de la même manière de 7 âges de l'Église. Or, si vous remarquez dans Apocalypse 1, nous trouvons Jésus se tenant dans les 7 âges de l'Église, les 7 chandeliers d'or. Quand Jean se retourna, il vit quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une... Comment était-ce? C'était l'épouse au milieu des chandeliers d'or qui avait été tirée dehors. Or, dans l'Ancien Testament, il prenait cette bougie, elle allumait, puis il prenait cette autre bougie, elle allumait sur la première. Puis de celle-là, ils en allumaient une autre, et de celle-là une autre, jusqu'à ce que les 7 chandeliers soient allumés. Si vous remarquez au commencement, quand Dieu commença à traiter avec les Juifs, ils passèrent par l'âge d'or. Puis l'âge le plus sombre des rapports entre Dieu et les Juifs eut lieu lors du règne d'Akab. Et en lisant ces âges de l'Église, vous remarquerez que cela revient directement à cela. Il dit que certaines choses, pendant ces 1500 ans d'âge sombre, ou durant le temps d'Akab, premièrement, et des Juifs, l'âge le plus sombre qu'ils eurent fut lorsque Akab épousa Jézabel et amena l'idolâtrie en Israël, et qu'il fit en sorte que tout le peuple adore le Dieu de Jézabel. Vous vous souvenez qu'ils ont dressé les pieux sacrés et qu'ils ont renversé les autels de Dieu. C'est alors qu'Élie cria qu'il était tout seul, mais Dieu n'avait 700 qui n'avait pas encore fléchi le genou devant Baal. Vous en souvenez-vous? C'est un type de cette église élue qui sort. Voyez-vous cela? Voyez-vous ce qui en est? Or, dans cette église, dans cette première église, vous pourrez remarquer qu'il dit, la première église, l'église d'Éphèse était une grande église. Tu as encore de la lumière. Et si vous avez examiné chaque église, vous verrez que la lumière devient de plus en plus faible. Elle devient plus faible jusqu'à Thyatire. Puis il y a les 1500 ans, puis cela sort de l'autre côté. Tu n'as qu'un peu de vie, affirmer ce que tu as, de crainte que ton chandelier soit ôté. Puis ça continue jusqu'à l'âge de l'église de Philadelphie. Et ensuite à l'âge de l'église de Laodicée. Maintenant, oh, voici une beauté. Oh, j'aime ceci, frère Smith. Vous voyez, regardez ceci. Or, dans cet âge de l'église, comme nous venons de le voir, maintenant observez ceci. Le premier âge de l'Église était celui d'Éphèse, l'âge de l'Église d'Éphèse. Or, dans chacun de ces âges de l'Église, jusqu'à ses 1500 ans, vous verrez que, lisez-le en rentrant chez vous ce soir, si vous en avez le temps, ou tôt demain matin, avant de venir à l'Église, dans les premiers, deuxième et troisième chapitres de l'Apocalypse. Vous y verrez chacun de ces âges de l'Église. Il dit, tu as peu de puissance et tu n'as pas renié mon nom, jusqu'à ce qu'il arrive à ses 1500 ans de Thyatire, l'âge sombre. Puis de l'autre côté, il vient et dit, tu as le nom de vivre et tu es mort. Et aucun de ces autres âges de l'Église, cet âge de l'Église de Philadelphie, n'a jamais repris ce nom. Ils n'ont jamais eu ce nom parce qu'il disparut du ressort-là. Combien pourrions-nous maintenant appliquer cela à ces faux enseignements? Nous pourrions le faire en ce moment même pour montrer que l'Église catholique est la mère de tout cela. Elle est maintenant mère mystère Babylone. Regardez cet âge de l'Église ici. Au commencement, il y avait une petite lumière, puis elle devint de plus en plus faible. Puis elle entra dans une organisation lors de ses 1500 ans. Elle apparaît maintenant, non pas en tant que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, mais en tant que l'Église catholique. Qu'est devenu Luther? L'Église luthérienne. Que sont devenus les baptistes? L'Église baptiste. Ce n'est pas son nom. Pas son nom. Un autre nom. Vous avez un nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel vous deviez être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ.
Amen.
Tu as le nom de vivre, et tu es mort. C'est avec cette dénomination. Oh, je suis presbytérien, et vous êtes mort. Oh, je suis baptiste, et mort. Vous êtes seulement vivant quand vous le devenez en Jésus-Christ. C'est vrai. Vos faux baptêmes d'eau par aspersion, plutôt que par immersion, en utilisant Père, Fils et Saint-Esprit, au lieu du Seigneur Jésus-Christ. Alors que la Bible dit la vérité à ce sujet, toutes ces choses fausses se perpétuent, elles se déversent là-dedans, le plus rapidement possible, et ici, comme nous tolérons cela. Eh bien, mon Église croit ainsi, mais la Bible dit ceci, vous voyez? Il n'y a pas de telle chose, il n'est dit nulle part dans la Bible qu'ils sortirent leur langue pour prendre l'hostie, et qu'un prêtre but le vin en l'appelant le Saint-Esprit. Jamais dans la Bible n'ont-ils appelé le fait de se serrer la main et de donner la main d'association le Saint-Esprit. Jamais personne ne s'est levé en disant, maintenant, je suis un croyant et recevoir le Saint-Esprit. Si c'était le cas, voici ce que dirait le chapitre 2 des Actes. Le jour de la Pentecôte, un prêtre romain descend la route avec son col empesé. Il s'avance et dit, tendez tous vos langues, maintenant et prenez l'hostie, la première communion. Ne serait-ce pas quelque chose de lire Actes 2 ainsi? Eh bien, vous protestants, vous êtes tout aussi mal. Si nous allons vers vous, méthodistes, vous dites, donnez-leur la main d'association et 6 mois d'essai. Où lisez-vous cela dans Acte 2? Où trouvez-vous cela? Vous voyez, il est dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il ne vint jamais d'évêque qui fit ensuite ceci, et ne vint jamais de prêtre qui fit ensuite cela. Mais tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Voilà de quelle manière ils l'ont reçu. Oui, monsieur, comme un vin impétueux venant de la gloire, non pas de la route ou d'une dénomination. Tu as le nom de vivre et tu es mort. Vous voyez, vos credos et vos dénominations ont mis Dieu dehors, si bien que maintenant vous dites, nous croyons ceci et nous croyons que le temps du miracle est passé. C'est un faux prophète qui dit cela. C'est un faux prophète qui vous dit que vous pouvez vous serrer la main et recevoir le Saint-Esprit. C'est un faux prophète qui vous dit que vous recevez le Saint-Esprit quand vous croyez. C'est un faux prophète qui vous dit d'être aspergé plutôt que baptisé. C'est un faux prophète qui vous dit d'être baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Alors il n'y a pas de passage pour prouver cela dans la Bible. C'est vrai, il n'y a pas de passage dans la Bible qui vous dise d'être baptisé ou quelqu'un a été baptisé autrement que dans le nom de Jésus-Christ. À part les disciples de Jean, ils durent être rebaptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. C'est vrai. Or, ce n'est pas la doctrine des Jésus seuls. Je connais la doctrine des Jésus seuls. Ce n'est pas cela. C'est la doctrine de cette Bible. C'est vrai. Mais vous y êtes. Que faites-vous avec cela? Voici votre mère. C'est la mère de ces credos. Maintenant, regardez dans la Bible et dites-moi où quelqu'un fut une fois aspergé, vous méthodistes, presbytériens, catholiques. Dites-moi où une personne fut une fois aspergée dans la Bible. Dites-moi où une personne fut une fois aspergée dans la Bible pour la rémission des péchés. Dites-le. Pouvez-vous le trouver? Si vous le trouvez, venez vers moi, je descendrai cette rue avec un signe sur le dos, disant que je suis un faux prophète, que j'ai eu tort. Ou alors trouvez un endroit dans toute la Bible où quelqu'un a été une fois baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, comme 80% d'entre vous l'a visité. Trouvez-moi un passage de l'Écriture où quelqu'un a été une fois baptisé ainsi, et je mettrai un signe dans mon dos, faux prophète, et je descendrai la rue avec ceci. Montre-moi où quelqu'un a été une fois baptisé dans la nouvelle Église, qui n'est pas dû venir être rebaptisé non pas dans le nom de Jésus seul, mais dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Voyez si ce n'est pas vrai. Qu'est-ce? Elle était une mère de prostituée. Qu'est-ce qui fit d'elle une prostituée? Qu'est-ce qui fit d'elle une femme immorale? Sa doctrine. Qu'est-ce qui fit d'elle des prostituées? Sa doctrine. C'est la raison pour laquelle nous ne tolérerons pas leur dénomination, leur dogme. Nous restons purs avec cette Bible. Je ne sais pas de quelle façon vous la vivez, mais néanmoins, elle vous est enseignée. C'est vrai, cela dépend de vous. Je ne peux pas vous forcer à la vivre. Je peux seulement vous dire que c'est la vérité. C'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Je ne voudrais pas que nous souillions en entrant dans de telles choses, et en devant nous plier devant un certain dogme. Je préférerais prendre le chemin que petit nombre des méprisés du Seigneur. Je préférerais rester propre et pur devant la parole de Dieu, et rester là, et dire qu'il y a sur mes vêtements le sang d'aucun homme. Voilà pourquoi nous restons en tant que Branham Tabernacle. Voilà pourquoi nous ne sommes pas les assemblées. Voilà pourquoi nous ne sommes pas unitaires. Voilà pourquoi nous ne sommes pas Jésus seul. Voilà pourquoi nous ne sommes pas méthodistes. Voilà pourquoi nous ne sommes pas baptistes. Ce n'est ici qu'un petit tabernacle. Nous n'avons pas du tout de dénomination. Nous sommes libres en Christ. Voilà pourquoi nous restons tels que nous sommes. Et Dieu nous a bénis et aidés. Maintenant, nous allons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Nous vous dirons pourquoi nous pratiquons le lavage des pieds et pourquoi nous ne voulons pas laisser les membres prendre la communion si nous savons qu'ils vivent dans le péché. C'est pourquoi ces deux ou trois dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre et que j'ai visité ceux entre lesquels il y avait de quelques petits différends, si bien que l'un ne parlait pas à l'autre et qu'en le rencontrant sur la route, il détournait la tête. Honte à vous! Vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu au-dessus de l'autel ici, qui vous êtes appelés frères et sœurs, et qui ensuite prenez le téléphone et commencez à parler mal les uns des autres, vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien quand vous agissez ainsi. C'est vrai. Restez éloignés du téléphone. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Souvenez-vous que Dieu vous tiendra pour responsable. Aussi longtemps que cette sorte d'esprit est en vous, vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Si vous ne le sentez pas, si un homme est dans l'erreur, allez vers lui et réconciliez-vous. Si ne vous pouvez pas ne vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Ce n'est pas étonnant que Dieu ne puisse pas discipliner son Église. C'est que vous ne vous y prenez pas correctement. Au lieu de prendre le téléphone et de parler de ceci, de ce qui est arrivé et d'avoir de petits conciliabules, au lieu de faire cela, pourquoi ne faites-vous pas ce que la Bible enseigne? Si un frère était pris en faute, allez vers lui et voyez si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec lui. Oh, il m'a fait, peu importe ce qu'il a fait, allez quand même vers lui. Elle ne dit pas que c'est à lui de venir vers vous, c'est à vous d'aller vers lui s'il est dans l'erreur. Elle ne dit pas, eh bien, il est dans l'erreur, c'est à lui de venir vers moi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible enseigne que c'est à vous d'aller vers lui. S'il est dans l'erreur, allez vers lui. S'il ne veut pas vous écouter, alors prenez quelqu'un avec vous comme témoin. Et s'il ne veut pas voir ce témoin, alors prenez votre pasteur. Alors dites-lui, je vais en faire part à l'Église. Et si dans les 30 jours qui viennent, frère, vous ne vous êtes pas arrangé, ce frère ici est prêt à se réconcilier, vous ne le voulez pas, si vous ne vous êtes pas arrangé dans les 30 jours, alors que va-t-il arriver? Vous n'êtes plus des nôtres. La Bible dit que s'il ne veut pas écouter l'Église, qu'il soit alors pour vous comme un païen et un publicain. Vous voyez, aussi longtemps qu'un frère est sous cette protection de l'Église, le sang de Christ le protège. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à faire marcher l'Église comme elle devrait. Maintenant, c'est la doctrine de l'Église baptiste, ou plutôt du Branham Tabernacle ici, si vous le faites. Voyez-vous pourquoi? Si vous prenez par exemple deux hommes, Léo et moi, je dirais bien, Léo m'a causé du tort. Peu importe, je suis censé aller vers lui. Car c'est un membre de cette Église. Il est devenu chrétien. Il a pris la communion ici à la balustrade avec moi. Et nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous nous sommes conduits comme d'honnêtes frères l'un vis-à-vis de l'autre, et tout à coup quelque chose arrive. Ce n'est pas l'homme, dans le 90% des cas, c'est le diable qui s'est interposé entre les gens. Ce ne sont pas les gens, c'est le diable. Et aussi longtemps que vous laissez le diable faire cela, vous faites du mal à votre frère. C'est vrai, eh bien s'il y a quelque chose de faux entre Léo et moi, allons nous arranger. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose, c'est votre devoir de venir vers nous et de dire, vous deux, venez ici, nous allons mettre cette chose en ordre. Alors si cela en arrive là, je dirais, eh bien, premièrement, nous ne pouvons pas tomber d'accord. Alors, vous venez vers l'Église comme cela, et si, cependant, aussi longtemps que vous ne faites rien à ce sujet, le sang de Jésus-Christ nous protège tous les deux. Voyez-vous? Alors ce vieux cancer engendrera un autre cancer, jusqu'à ce que finalement, l'Église entière soit malade. Ensuite, cela arrivera au point où, quand vous viendrez à l'Église, elle sera si froide que vous devrez faire venir le concierge pour casser les glaçons dehors, avant que l'Assemblée puisse entrer. Maintenant, vous savez que c'est vrai. Si froide, ils viendront s'asseoir, vous savez, sans rien dire. Dans le passé, nous étions si spirituels. Mais qu'est-il arrivé? Vous avez bien marché. Que s'est-il alors passé? Vos péchés vous séparent. Dieu vous en tiendra pour responsable, frère. Maintenant, rectifiez cette chose. Rien n'est allé mal avec moi, rien n'est allé mal avec Léo. C'est le diable qui s'est mis entre nous, c'est vrai. Mettez la chose en ordre, allez vers lui. Puis s'il ne veut pas écouter, ou si moi je ne veux pas écouter, quoi qu'il en soit, dites-le à l'Église. Et s'il ne vient pas pour se réconcilier avec cette Église, dans les 30 jours, alors il n'est plus sous la protection de Jésus. Nous le délions. C'est tout à fait juste. Observez ce qui arrive ensuite. Laissez alors Dieu faire la discipline. Vous êtes déchargé de la chose. Vous avez fait tout votre possible. Alors laissez Dieu s'occuper de lui quelque temps. Il le livrera au diable. C'est alors qu'il reviendra. S'il ne revient pas, sa vie ne durera que peu de temps. Vous vous souvenez de ce qui est parlé dans la Bible d'un frère qui ne voulait pas se mettre en ordre avec Dieu? Combien s'en souviennent? Il vivait avec sa mère adoptive et on ne pouvait pas le remettre sur le droit chemin. Paul dit, livrez-le au diable pour la destruction de la... Vous verrez que dans 2 Corinthiens, il s'est mis en ordre. J'ai un frère, un cher ami. Pourquoi ne pas le nommer? Un frère prédicateur. Et ce frère prédicateur, son nom est frère Rasmussen. Beaucoup d'entre vous, prédicateurs, qui êtes ici ce soir, son nom figure dans vos registres en tant que frère interdénominationnel à Chicago. Et regardez, il avait un garçon. Il est parti à épouser une jeune fille catholique et a commencé comme cela. Elle voulait faire ceci, encore cela et tout le reste. Elle eut des ennuis. Son papa est allé vers lui et lui a dit, « Regarde, fils, veux-tu te réconcilier ?» Il répondit, « Papa. » Il a appelé l'Église un temps d'exalter, son papa. Il dit, « Maintenant, regarde, vas-tu mettre cette chose en ordre avec cette Église ?» Il répondit, « Écoute, papa, tu es mon père et je ne veux pas me chicaner avec toi. » Très bien. Le père partit, prit un des diacres et alla le trouver chez lui. Il lui dit, « Wesley, je veux te parler. Vas-tu mettre cette chose en ordre avec l'Église ?» Elle lui répondit de façon cassante. Et le père dit, « Souviens-toi, Wesley. » Je suis le pasteur de cette église. Je suis ton père, mais je vais faire ce que Dieu enseigne. Je te donne 30 jours pour mettre cela en ordre avec cette église. Sinon, nous t'excommunierons de la présence de Dieu. Tu es mon propre fils. Lui est mon sauveur. Je t'aime. Tu sais que je t'aime, Wesley. Je donnerai ma vie pour toi en ce moment même. Mais tu dois te mettre en ordre avec la parole de Dieu. Vois-tu? Je suis le pasteur. Je suis le berger de ce troupeau. Et que tu sois mon fils ou n'importe qui d'autre, tu dois vivre conformément à la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, alors je ne suis pas digne d'être son berger. Oh, ça c'est un pasteur, c'est un homme. Ne pensez-vous pas, c'est un homme. En parlant ainsi à son garçon, il dit que cela lui avait fait mal. Mais il ajouta, qui allez-vous blesser, l'homme ou votre sauveur? Puis il dit qu'ils allèrent plus loin, car ils ne voulaient pas obéir. Il le dit à l'église en ces termes, mon propre fils, Wesley, refuse de m'écouter dans cette affaire. Elle refuse d'écouter le diacre. Vous en êtes témoin, frère Hotel? Oui. Très bien, à 8 heures dimanche dans 4 semaines, s'il n'a pas mis cette chose en ordre avec cette église, nous livrerons Wesley mon fils au diable pour la destruction de la chair. Le sang de Jésus-Christ dans cette église ne le protégera plus. Ce soir arriva, il vint à la chair et dit, il n'y a plus que deux minutes. L'heure arriva, elle dit, étant donné que mon fils Wesley Rasmussen a déclaré à cette assemblée et à toi Dieu Tout-Puissant, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, selon ta parole et les instructions que ton fils, notre sauveur, nous a laissées. Maintenant, cette église et moi livrons mon fils au diable pour la destruction de sa chair, afin que son âme soit sauvée. C'est tout ce qui fut dit. Rien n'arriva pendant une semaine ou deux, peut-être un mois ou deux. Une nuit, Wesley tomba malade. Puis cela alla en empirant. Il appela le médecin. Le docteur vint et l'examina. Il avait 40 de température sans que l'on puisse en trouver la raison. Il allait de mal en pire. Finalement, le docteur déclara, « Eh bien, je ne sais vraiment pas ce qui a pu vous arriver. » Ne sachant que faire, il téléphona à un spécialiste. Et le spécialiste vint, on l'emmena à l'hôpital, et après l'avoir examiné, il dit, « Je ne peux pas vous dire ce qui en est, mais déjà son teint est cadavéreux. » Sa femme était là, qui pleurait, tous les enfants se tenaient autour du lit. Et le médecin déclara, « Il s'en va, c'est tout. » Son pouls et sa respiration deviennent toujours plus faibles. Alors le fils dit, « Appelle, papa. »« Oh oui !» C'est ainsi qu'il faut faire. C'est cela. Appelle papa. Et son papa se rendit rapidement à l'hôpital pour le voir. Il dit, papa, je ne le peux pas maintenant, mais Dieu entend mes paroles. Je mettrai tout en ordre. Je mettrai cela en ordre. Oui, je le ferai. Oui, monsieur, frère, à ce moment-là, sa respiration commence à redevenir normale. Et le dimanche suivant, il était devant l'église qui disait, j'ai péché devant Dieu en présence de cette église. J'ai refusé d'écouter les paroles du pasteur. J'ai refusé d'écouter le diacre ici. Et je demande à cette église de me pardonner pour le mal que j'ai fait. Comme cela. Et il ajouta, Dieu a épargné ma vie. Laissez-moi vous dire qu'après cela, il a vécu droitement. Ah, c'est ce que vous devez faire, voyez-vous, si vous êtes simplement prêt à le faire à la manière de Dieu, voyez-vous. Mais voilà comment nous agissons. Nous avons une réunion du conseil, nous disons, eh bien, devrions-nous garder, je ne dis pas cela pour le tabernacle, mais nous, protestants, nous avons une réunion du conseil, et nous disons, que pensez-vous de Jones? Que pensez-vous qu'il faudrait faire avec lui? Je pense qu'il serait un meilleur membre chez les méthodistes que chez nous. Vous y êtes. C'est faux. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas suivre leur tradition. Et un certain évêque que nous avons coutume d'appeler quand... Comment l'appelez-vous? C'est un responsable régional dans l'église de Pentecôte. Un ancien de district que nous devrions appeler pour qu'il voie la conduite de cet homme. Non, ce n'est pas ainsi, car la Bible nous enseigne ce qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas avoir affaire avec leur dénomination et que nous restons éloignés de cette chose. Amen. Vous n'êtes pas fâchés contre moi, n'est-ce pas? Ne faites pas cela. Je vais probablement recevoir de très bonnes questions demain soir, mais nous, c'est vrai, vous voyez, souvenez-vous que je dis ceci maintenant, vous qui êtes venus de différentes églises dénominationnelles, votre dénomination, frère, je ne dis pas que vous n'êtes pas un chrétien, je ne dis pas que votre dénomination n'est pas, il y a des milliers de braves chrétiens qui s'y trouvent. J'essaie simplement d'indiquer la raison pour laquelle nous ne sommes pas une dénomination. C'est simplement parce que je ne voudrais pas soutenir cela. Non, monsieur, assurément pas. Nous essayons de vous dire ce qu'il faut faire. Si Dieu m'a appelé à prêcher l'Évangile, alors je le prêcherai comme Dieu me le montre. C'est simplement tel que c'est écrit ici dans cette Bible. Si cela ne concorde pas avec ceci, alors Dieu me jugera pour cela. Mais si en voyant le loup venir ou l'ennemi venir, je ne les avertis pas, alors Dieu me le redemandera. Mais si je vous avertis, c'est ensuite votre affaire, vous voyez. Souvenez-vous que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Vous voyez, blasphémateurs. Oh, cette bande d'idiots, le temps du miracle est passé. Cela n'existe pas. C'est un vieux faux prophète. Nous savons que nos femmes ont autant de bon sens que nos hommes. Or, je ne le conteste pas du tout, mais la Bible de Dieu déclare, gardez-la éloignée de la chair. Et pour ma part, c'est suffisant. Vous voyez, c'est vrai. Très bien. Vous dites, eh bien, dans nos dénominations, nous avons des gens tout aussi gentils que vous à ce tabernacle là-bas. Je ne dis pas le contraire, mais la Bible condamne les dénominations. C'est vrai. Ainsi, je ne dis pas que vous n'avez pas de bons membres dans votre église. C'est merveilleux. Ce sont de braves gens. Ce sont parmi les plus braves. J'en rencontre dans toutes, parmi les catholiques et tous les autres. Je rencontre de bons membres. La façon dont nous allons exposer ceci, mes amis, Dieu voulant, dans ces deux prochaines études, je vous ferai peut-être savoir demain matin si nous devons encore prendre demain après-midi pour terminer cela. La raison pour laquelle nous essayons de faire ceci, c'est que je veux l'amener maintenant jusqu'à un certain point. Or, si vous voulez amener quelqu'un avec vous, vous êtes parfaitement libre de le faire. Mais souvenez-vous maintenant de ceci. Ne venez pas ici simplement pour critiquer. Venez ici, je parle simplement à mon assemblée. Vous voyez, je n'enseigne pas ceci en dehors de mon assemblée ici. Vous voyez, parce que c'est l'affaire de l'autre personne. Il est le berger de ce troupeau. Je ne suis qu'un. Si vous revenez à la Genèse, vous en sortirez cela et vous verrez où cela se trouve. Maintenant, nous allons retourner à Genèse pour découvrir pourquoi un enfant illégitime ne pouvait pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel durant 10 générations, ce qui ferait 400 ans pour ôter ce péché. Nous verrons de quelle manière la droiture des parents est reportée sur les enfants et sur les enfants des enfants, et comment cela a commencé dans la Genèse, et ainsi de suite. Puis vous verrez que tout au début, avant la fondation du monde, avant que n'éclate un atome, avant même que n'existe un météore de lumière, Dieu connaissait chaque créature et tout ce qui serait un jour sur la terre. Y a-t-il ici quelqu'un? Vous ne pourriez pas expliquer, même en le décomposant, ce que veut dire le mot « infini ». C'est comme si vous régliez votre appareil de photo sur infini. Cela part simplement de là, c'est tout. Voyez-vous, l'infini. Nous ne pouvons jamais, dans un esprit limité, comprendre ce qu'une intelligence infinie pourrait concevoir. Vous voyez, nous ne le pouvons pas. Vous ne le pouvez pas, vous voyez. Mais si vous faites bien attention et que vous restiez dans l'esprit, vous pouvez sentir cela tout là-bas. Revenez ici à l'Écriture et vous le verrez. Maintenant, voyez-vous, bien avant la fondation du monde. Or, la Bible déclare que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu. Maintenant, écoutez très attentivement, car il se peut que certains d'entre vous ne soient pas ici demain matin pour en entendre la fin. La Bible déclare que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. Est-ce correct? Quand faut-il immoler? Dès la fondation. Ainsi, si le monde est composé d'atomes fragmentés, retirés du soleil là-bas, avant qu'il soit cela, alors avant qu'un atome ne se fragmente dans le soleil, si ceci est un météore détaché du soleil, ce qui ferait 100 milliards de milliards de milliards de milliards d'années, avant qu'il y ait un météore de lumière, Christ fut immolé. Quand la grande pensée de Dieu s'arrête sur quelque chose, c'est un produit fini. Quand Dieu dit « que cela soit », c'est déjà fini. Même si cela a pris 100 milliards d'années avant de s'accomplir, c'est déjà fini aussitôt qu'il l'a prononcé. Et quand l'agneau fut immolé dès la fondation du monde, la même Bible, le même esprit, écrivait et dit que nos noms furent placés dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Ainsi, l'homme qui écrivait le cantique, il y a un nouveau nom écrit dans la gloire, avait de bonnes intentions, mais il n'était pas scripturaire. Vous voyez, ce nom fut écrit dans la gloire quand le monde, avant la fondation du monde, quand l'agneau fut immolé, nos noms furent mis dans le livre de vie de l'agneau. Laissez-moi juste vous donner un petit passage de l'Écriture. Êtes-vous d'accord? Pouvez-vous attendre une minute? Ceci me vient maintenant à l'esprit, je pense que je peux le retrouver rapidement. Je ne suis pas sûr. Je regrette de vous garder si longtemps, mais je vous ai dit que cela se terminerait à minuit. On n'y est pas encore tout à fait. Mais j'aimerais simplement prendre cet unique passage de l'Écriture. Prenez avec moi dans le livre des Romains, et je désire que vous lisiez ceci avec moi. Donc, Romains, je pense que cela doit se trouver par là. Donc, prenons Romains, chapitre 8, et commençons au verset 28. Romains 8, 28, et je désire que vous le lisiez avec moi dans un esprit de prière. Écoutez maintenant ce que Dieu déclare. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car Dieu, ceux qu'il a connus d'avance, pouvez-vous suivre avec moi? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, très bien, à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dès la fondation du monde, lorsque Dieu regarda en bas, or Dieu ne dirige pas son bureau en disant « Je vais, oh, qu'allons-nous faire maintenant ?» Vous voyez, il n'y a rien. Souvenez-vous que l'iniquité, le péché, c'est la justice pervertie. Le diable ne peut pas créer. Le comprenez-vous tous? C'est la doctrine de cette Église. Le diable ne peut pas créer. Il peut pervertir ce que Dieu a créé. Or, qu'est-ce que la perversion? Ici, vous paraissez être pour la plupart des adultes. Écoutez ceci. Nous sommes des gens mariés. Vous, hommes et femmes mariés, vous pouvez vivre ensemble comme mari et femme, et ces femmes sont comme avant, elles sont vierges. Aussi longtemps que vous restez avec votre mari, c'est vrai. Or, c'est légal, c'est juste, et c'est prévu par Dieu de le faire. Une autre femme peut accomplir le même acte que votre femme, mais dans l'un des cas, vous êtes juste aux yeux de Dieu, mais par le même acte, avec une autre femme, vous êtes condamné à mort par Dieu. Qu'est-ce? La justice pervertie. Vous voyez? La justice pervertie. Or, le diable ne peut pas créer, mais il pervertit ce que Dieu a déjà créé. Qu'est-ce qu'un mensonge? c'est la vérité pervertie. Si quelqu'un disait, « Oh, c'était samedi soir à 9 heures. » Oui, Bill Branham était à Jeffersonville, c'est correct. Au bar de Yancey ivre, un mensonge. Qu'était-ce? J'étais à Jeffersonville, c'est la vérité. C'était la justice pervertie en un mensonge. Voyez-vous ce que je veux dire? Voyez-vous, un mensonge pervertit ce qui est juste. Il a été dit où je me trouvais. Or, cela avait été dit à l'église en train de prêcher. Cela aurait été correct, c'est la justice. Il dit la vérité. À la taverne, en train de boire. Un mensonge, vous voyez, la vérité pervertie. Voyez-vous ce que je veux dire? Toute iniquité est la justice pervertie. Qu'est-ce que la mort? La vie pervertie. La maladie? La santé pervertie. Vous êtes censé être un homme fort et en bonne santé. Très bien. Si vous êtes malade, qu'est-ce? Votre santé a été pervertie. Vous voyez, tout est là. Qu'est-ce? Vous étiez dans le passé une jeune femme belle, un bel homme fort. Maintenant, vous êtes ridé et vous devenez vieux. Qu'est-ce? La vie pervertie. Vous voyez? Voyez comment cela revient? Cela doit revenir. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a promis de ramener cela. Et aussi sûr que cela existe, nous savons que c'est ici. Ainsi, aussi sûrement que cela existe, Dieu va le ramener. Il l'a promis et il a juré qu'il le ferait. C'est ce qu'il nous donne. Ainsi, quel genre de gens devrions-nous être? Maintenant, remarquez comment ces choses arrivent. Ainsi, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il, quand? Avant la fondation du monde. Avant que le monde existe. Or, si nous prenions ce passage de l'Écriture et que nous voulions le justifier, cela prendrait des heures, mais nous ne voulons pas le faire. Ainsi, toute cette iniquité ici est la justice pervertie en iniquité. C'est ce que le diable fait. Lorsque vous arrivez à l'âge de raison et que vous savez ce qui est faux et ce qui est juste, vous êtes censé vous détourner de ce qui est mal parce que vous êtes né dans le péché. Vous avez été enfanté dans l'iniquité et vous êtes venu au monde en proférant des mensonges. Vous êtes né en fait dans un désir sexuel et ensuite vous devez naître de nouveau afin de recevoir une nouvelle naissance pour rentrer au ciel. Car le genre de naissance que vous avez ici, vous pouvez voir combien les témoins de Jéhovah sont dans l'erreur sur ce point-là, en pensant que la nouvelle naissance est la résurrection des morts, résurrection du corps. Vous voyez, cela ne se peut pas, cela doit être quelque chose, vous êtes dans un élément de temps. Et la seule chose qui est éternelle, c'est celle qui a ni commencement ni fin. Tout ce qui est éternel n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Ainsi, si vous êtes une partie de Dieu, l'Esprit qui est en vous n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Vous êtes éternel avec l'Esprit qui est en vous. Vous voyez, c'est semblable à l'amour agapao qui est suivi par l'amour phileo pour finir avec l'amour de convoitise. Cela descend, descend, descend en se pervertissant pour devenir finalement un tas de quoi? De gâchis. Or, le seul moyen, Jésus est descendu cette même échelle pour relever ce qui était au plus bas point et le ramener au plus haut. De la mort à la vie. De la maladie à la santé. De l'iniquité à la justice. Vous voyez, il est passé du plus élevé au plus bas afin de pouvoir amener le plus bas au plus haut. Il est devenu moi, afin que par sa grâce, je puisse devenir lui, un héritier du trône, dans la gloire. Voyez-vous ce que je veux dire? Ces choses, maintenant regardez, tout là-bas, avant que ce monde ne commence, dans ses atomes, et que Dieu vit ce qui allait arriver, à ce moment-là, il vous vit, il me vit, il vit chaque puce, chaque mouche, chaque grenouille, chaque moustique. Il vit à ce moment-là tout ce qui serait un jour sur la terre. Assurément. Or, il n'a jamais dit, je vais envoyer mon fils sur la terre et le laisserai mourir et peut-être que quelqu'un aura pitié de lui. Cela sera un cas tellement pitoyable. Peut-être seront-ils, quelqu'un sera peut-être sauvé. Non, il a connu d'avance ceux qui seraient sauvés. Oui, monsieur, il a dit, Ésaü, je l'ai haï et Jacob, je l'ai aimé. Avant même qu'ils aient la chance de prouver ce qu'ils étaient. Parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient. Il le savait. Il sait toutes choses. Il savait ce que vous feriez avant que vous veniez au monde ou à la fondation du monde. Maintenant, regardez. Comme vous le savez, je suis un chasseur. J'aime les fusils. Et une dame au Texas, je crois que c'était au Texas, m'acheta un fusil Swift, un Swift 220. J'en ai toujours désiré un. Je voulais l'étudier. C'est la petite arme la plus puissante. C'est une cartouche de 22 qui pèse environ 3 grammes. Et vous pouvez charger vous-même la cartouche. Toutefois, la fabrique dit, ne le faites pas, c'est trop dangereux. Mais vous pouvez charger cette cartouche à la main pour qu'elle fasse 1665 mètres à la seconde et toujours la garder à sa place. 1665 mètres à la seconde. Cela fait plus d'un kilomètre et demi à la seconde. En d'autres termes, si vous tirez un faucon qui se trouve à 200 mètres, vous verriez les plumes voler avant de sentir le recul de l'arme. Vous voyez? Mais si vous prenez la partie plate d'un cure-dent et que vous la plongez dans la poudre et que vous versiez ce qui se trouve dans la cartouche, juste la quantité qui pourrait se trouver sur un cure-dent et que vous tiriez sur une marmotte assise à l'autre bout de ce bâtiment, vous la verriez toujours assise à vous regarder. Que se passe-t-il? La balle se désintègre parce qu'elle va trop vite. Et vous pourriez placer un drap entre ici et là-bas. Et vous ne verriez même pas un petit fossile tomber sur le drap. Cela s'est transformé à nouveau, non pas en cendre volcanique, mais cela va plus loin que cela. Cela retourne aux acides originaux qui forment le cuivre et le plomb qui se trouvent là-dedans. Cela retourne à son état d'il y a 100 milliards d'années. Or, voici une petite cartouche d'environ 3 grammes que je tiens dans la main. Et la seconde plus tard, elle est retournée à ce qu'elle était il y a 100 millions d'années. Et probablement que si le monde restait encore 100 millions d'années, cela redeviendrait une cartouche. Cela pourrait redevenir ainsi, car cela se retransformerait en cuivre. Maintenant, regardez ce que Dieu a fait, et alors vous l'aimerez, vous rentrerez chez vous, et demain matin, vous dormirez un peu plus tard, et vous l'aimerez plus que jamais. Or, Dieu est un entrepreneur. Combien le savent? Il est un constructeur. Très bien, écoutez très attentivement. Or, Dieu, il y a très longtemps, disent-ils, nous allons prendre l'idée à ce sujet du chronologiste. Dieu, il y a 100 milliards d'années, quand il se préparait à faire le monde, eh bien, il commença simplement. Or, il avait une idée dans son esprit. Maintenant, vous allez dire, s'il est aussi grand que ça, frère Branham, comment se fait-il qu'il ait permis au diable de faire le péché? C'est qu'il savait, avant que le diable soit créé, qu'il serait le diable. Gloire à Dieu! Maintenant, je me sens religieux. Oh là là! Il savait, avant que le diable soit créé, qu'il serait le diable. Qu'en dites-vous? Vous dites, pourquoi l'a-t-il laissé être le diable? Afin qu'il puisse être reconnu comme étant Dieu. C'est vrai. Pourquoi y a-t-il eu l'iniquité? Lequel existait premièrement, un sauveur ou un pécheur? Lequel était le premier, un sauveur? Lequel était le premier, un guérisseur ou une personne malade? Pourquoi fut-il permis qu'il y ait un pécheur? Parce que ses attributs, c'est d'être un sauveur. Il n'y avait jamais eu de pécheur, il n'aurait jamais été connu en tant que sauveur. Alléluia! Il peut faire que toute chose se termine à sa gloire. Le vase peut-il dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Qui est autour? Qui possède l'argile? Entre les mains de qui est-ce? Paul dit, ô homme sans intelligence, n'a-t-il pas dit qu'il avait suscité Pharaon dans ce dessein? Certainement, il le savait avant que le monde existe. Il savait ce que serait chacun, et laissa exister le péché afin qu'il puisse être un sauveur. Il laissa exister la maladie, afin qu'il puisse être un guérisseur. Il laissa exister la haine, afin qu'il puisse être l'amour. Assurément, Dieu possède ses attributs, et doit avoir quelque chose pour les manifester. Comment auriez-vous su que la nuit existait? Comment l'auriez-vous su? Si tout était jour, comment auriez-vous su que la nuit existait? Il y a la nuit afin de prouver le jour. Assurément. Amen. Voyez-vous ce qu'il a fait? Mais quand il se trouvait là-bas avant la fondation du monde, avant qu'il ait pris ce vieux soleil et qu'il ait fait tourner autour de cette vieille étoile sur laquelle nous vivons maintenant, cette terre, et la forma ici, au soleil, et la plaça autour de ce soleil. Disons qu'ici se trouve le soleil. Ainsi, il la forma de ce côté, elle la laissa suspendue là pendant 100 milliards d'années. Qu'était-il en train de faire? Des gaz. Il alla de l'autre côté, il fit quelque chose d'autre. Qu'était-il en train de faire là? De la potasse. Il se déplaça de ce côté. Et qu'était-il en train de faire ici? Du calcium. Qu'était-il en train de faire? Il était en train de nous faire, vous et moi. Qu'était-il en train de faire? Comme l'entrepreneur, il dispose toutes ses lambourdes, ses plateaux, ses côtés. Il savait exactement combien de bâtiments il allait construire. Nous sommes composés de 16 éléments de la terre. Et il nous faisait tous et nous plaçait là, avant que le monde existe. Et se peut que le monde ait été oblong à ce moment-là. Je ne sais pas comment il était. Dans quel but fit-il de l'or, du cuivre, le laiton, l'eau et toutes ces choses? C'est qu'il est un entrepreneur. Il est un constructeur. Il disposait tout à ce moment-là. Tout était coupé et façonné. Lorsqu'il eut tout fait, ce n'était qu'une grande éruption volcanique. Il laissa ces vieux volcans cracher durant 100 millions d'années pour faire du calcium. Qu'est-ce? C'est une partie de vous. Et ainsi, avant qu'il y ait le moindre brin de vie sur cette terre, nos corps se trouvaient là. Alléluia! Avant qu'une goutte d'humidité ne vienne sur la terre, nous nous trouvions là. Quand Adam parcourait le jardin d'Éden, je me trouvais là. Amen! Oui, monsieur. Oh, gloire à Dieu! Alors que les chérubins, les étoiles du matin, éclataient en chants d'allégresse, et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie, j'étais là, attendant simplement le souffle de vie. J'étais là. Il m'a fait là. Mon corps se trouvait là. Oui, monsieur, si ce n'est pas vrai, alors d'où est-il venu? Hein? Comment est-il venu ici? Dieu l'avait placé là. Dieu l'a fait. Nous sommes composés de 16 éléments. Le pétrole, la potasse, la lumière cosmique, et quoi encore? Voyez-vous, nous nous trouvions là. Puis qu'arriva-t-il? Dieu dit au Saint-Esprit, nous allons simplement le prendre sous forme de symbole. Pars maintenant, va faire la cour à ce monde, parce que je suis l'amour et que tu es un produit tiré de moi. Ainsi, maintenant, va faire la cour au monde. Et nous pouvons nous représenter le grand Saint-Esprit qui s'en va là-bas, si sous forme d'image maintenant, car ce ne fut pas ainsi. Bien sûr, le Saint-Esprit et Dieu sont la même personne. Il jeta ses ailes autour de la terre. Elle commençait à couver. Qu'est-ce que cela? C'est semblable à une poule vis-à-vis de ses poussins qui gazouillent. Il fait la cour. Cote, cote, cote. Oh, que la vie apparaisse! Cria-t-il. Il regarde autour de lui et dit, « Je veux la beauté sur cette terre! Vie, apparaît !» Le Saint-Esprit s'est manifesté, et à ce moment-là, je regardais, je vis couler de la colline là-bas du calcium, et se mélangea avec de la potasse. En quoi cela se transforma-t-il? En la vie! Celle-ci apparut, et une petite fleur de Pâques sortit sa tête de dessous une pierre. Il dit, « Viens ici, père, regarde cela. C'est la bonne façon. Continue simplement à couver. » Il fit apparaître les fleurs, il fit apparaître toute la végétation, il fit apparaître la vie animale, les oiseaux s'envolèrent de la poussière. Quelque temps après, apparut un homme et une femme. Un homme apparut, et l'homme était à la fois homme et femme. Cependant, il n'était pas hermaphrodite, c'était simplement lui. Il avait un esprit féminin. Quand vous prenez un homme qui est si efféminé, il peut être en ordre et avoir bonne façon. Mais il y a quelque chose de faux. Et quand vous prenez une femme qui veut se couper ses cheveux et porter des salopettes, puis sortir et dire « Qu'est-ce qui se passe moi ici ?» Il y a quelque chose de faux. Une femme a l'esprit féminin et un homme est masculin. Nous le savons. Maintenant, vous le savez. Une femme a-t-elle bonne façon quand elle essaie d'agir comme un homme? Eh bien, je me suis trouvé une fois, alors que j'étais garde-chasse ici, assis dans le bus, tandis que j'allais là-bas en train de taper avec ma main sur la jambe de la femme à qui je parlais, sans savoir que c'était une femme. Elle portait une de ses casquettes de soudeur et une grosse paire de lunettes de travail comme cela. J'étais assis là, elle me racontait quelque chose qui était arrivé. Elle dit, « Et vous savez, hier soir, » elle avait l'air tout ce qu'il y a de plus bourru, elle fumait une cigarette. Elle dit, « Hier soir, vous savez, ce gaillard a glissé au sommet de cette chose, elle est tombée là en bas. Je n'ai jamais autant ri de ma vie. » Je ris à gorge effeuillée, je dis, « Eh bien, mon gars, ce n'était une bonne, n'est-ce pas ?» Et je lui parlais ainsi. Mais quand elle enleva cette chose, elle secoua la tête, je vis par sa tignasse que c'était une femme. Je ne me suis jamais senti si petit de ma vie. Je dis, « Êtes-vous une femme ?» Elle répondit, « Mais bien sûr !» Je dis, « Pardonnez-moi. » Je n'ai jamais rien vu de pareil. Or, c'est la vérité. Je vis ainsi un autre jour qui m'a presque émerveillé. C'était un grand signe qui disait, les dames sont prêtes à porter des vêtements. Je pensais Dieu soit loué pour cela. Mais je découvris plus tard que c'était simplement une sorte de vêtement qui était déjà fait. Je pensais qu'ils allaient vraiment s'habiller. Je le pensais vraiment. Il était dit, les dames sont prêtes à porter des vêtements. Je dis, Dieu soit loué pour eux. C'est bien. J'ai vraiment remercié le Seigneur pour cela. Mais voyez-vous, c'était simplement un genre de vêtement qui était déjà fait. Cela devait être quelque chose comme ça dans ce pays. Bien, ainsi comme quand Adam apparut, et ensuite Adam semblait seul, aussi Dieu prit une côte dans son côté et fit Ève, un sous-produit pour lui. Il enleva d'Adam l'esprit féminin et le plaça dans la femme. L'esprit féminin qui aime, qui est gentil et doux, et laissa l'esprit masculin dans Adam. Or, si quelque chose est différent, c'est qu'il y a une perversion quelque part. Et alors, les deux étaient un. Ainsi, imaginons-nous simplement une petite scène avant de terminer. Voici Adam. Il prend Ève par le bras et ils vont se promener. J'aime vraiment cette histoire. Ils s'en vont, vous voyez. Ève dit, « Oh, chérie, tu veux dire que tu as... » Oui, j'ai nommé cela. Eh bien, comment l'appelles-tu? Cela s'appelle cheval. Qu'est-ce que cela? C'est une vache. Tu as nommé cela? Oui. Comment appelles-tu cela? Ces deux qui sont assis là-bas avec leur tête l'un contre l'autre. Ce sont des oiseaux qu'on appelle inséparables. Oh, je vois. Elle continue ainsi. Qu'est-ce que cette chose? Je l'appelle ainsi. Oh, je vois. C'est magnifique. Un lion rugit. Comment appelles-tu cela? C'est un lion. Qu'est-ce que ceci? C'est un tigre, et ainsi de suite. Oh, je vois, comme de petits minets, vous savez, en train de miauler. Ainsi, un peu plus tard, elle regarde autour d'elle. Elle dit, « Chérie, regarde là-bas, le soleil se couche. C'est le moment d'aller à l'église. » Vous savez, il y a quelque chose qui fait que lorsque le soleil se couche, vous avez le désir d'adorer. Si vous n'allez pas à l'église ce soir-là, vous aimez aller dans une chambre et lire la Bible. Combien aime le faire? Vous mettre à part. Voyez-vous, c'est simplement de l'homme de faire cela. Vous devriez le faire. C'est le moment d'aller à l'église. Or, ils n'ont jamais dit, attendez une minute, eh bien, Jones appartient aux assemblées, nous appartenons aux... Non, ce n'était pas ainsi à ce moment-là. Ainsi, ils allèrent là-bas, ils n'avaient pas d'église avec de bons sièges, ils allaient simplement sous la grande cathédrale des bois et s'agenouillaient tandis que ce halo se trouvait là, dans les buissons. Vous voyez, et je peux entendre une voix qui disait d'en haut, « Mes enfants ont-ils eu du plaisir aujourd'hui sur la terre que l'Éternel leur Dieu leur a donnée ?» « Oui, Seigneur, nous avons eu du plaisir aujourd'hui. N'est-ce pas, chérie ?»« Oui, oui, chérie, nous en avons eu. Seigneur, nous t'apprécions assurément. Maintenant, je vais me coucher pour m'endormir. » Voyez-vous, il étend son grand bras, elle vient appuyer sa tête sur celui-ci. Il fait coucher le tigre et le lion et tout le reste. Tout est si paisible. Ainsi, Dieu descend et il prend avec lui, oh, plusieurs anges, Gabriel, par exemple. Sa création céleste. Ainsi, ils descendent et ils entrent sur la pointe des pieds dans la chambre à coucher. Vous voyez? Elle regarde autour d'eux. Gabriel dit, « Père, viens ici, regarde donc. Voilà tes enfants qui sont couchés là. Combien de personnes ici sont-elles déjà allées au chevet? Certaines de vous, mère, qui êtes allées ensemble avec papa, et avez regardé le petit garçon ou la petite fille, et vous vous disiez l'un à l'autre, « Ne te ressemble-t-il pas comme ceci et comme cela? L'avez-vous déjà fait? » Oh, souvent, je dis à Méda, au sujet de Joseph, elle dira, « Bill, il a un haut front comme toi. » Oui, mais Méda, il a de grands yeux comme toi. Pourquoi cela? Il est une partie de notre, il est un produit de notre union. Ainsi, Gabriel dit, tu sais, il te ressemble tout à fait. C'est ainsi qu'est Dieu. Regardez-vous. C'est à cela que Dieu ressemble. Il a la même apparence que vous. Vous êtes son rejeton. Combien le savent? Maintenant, observez. Quelle est la forme de vie la plus simple que nous ayons? La grenouille. Quelle est la forme de vie la plus haute? L'être humain. Certainement. Et quelle est la forme la plus élevée? Cela a de la forme la plus simple à la plus élevée. De la grenouille à ceci, à cela, à l'oiseau, et ainsi de suite. Ce fut des formes de vie toujours plus élevées, jusqu'à cela arrive à la forme la plus élevée possible. Alors c'était à l'image de Dieu. Vous y êtes. Et la femme ne fut pas faite à l'image de Dieu, mais à l'image de l'homme. Vous voyez? Maintenant les voici. Dieu les regarda et dit, oui, ils sont admirables. Qu'était-ce, frère? Ils n'avaient jamais besoin de mourir. C'était simplement la première poignée de calcium, de potasse, et tout commence ainsi. N'est-ce pas merveilleux? Mais le péché est venu et a gâté l'image. Pourquoi Dieu a-t-il permis que cela soit ainsi, comme nous en parlions il y a quelques instants? Il l'a permis pour qu'il puisse prouver qu'il est un sauveur. Il l'a fait. Il a laissé la maladie arriver afin qu'il puisse prouver qu'il est un guérisseur. Il a laissé la mort arriver pour prouver qu'il était la vie. Vous voyez? Il laissa toutes ces mauvaises choses arriver pour prouver qu'il était bon et ce qu'il était. Vous parlez de choses racontant la rédemption. Oh, frère, quand Jésus viendra, cette église se tiendra là-bas sur l'empire de cette terre. Elle chantera au sujet de l'histoire de la rédemption, tandis que les anges inclineront la tête ne sachant pas ce dont nous parlons. Car ils ne furent jamais perdus. Ils ne savent pas ce que nous avons traversé. Nous savons ce que cela veut dire d'être perdu et d'être retrouvé. Oh, pouvons-nous crier ces louanges? Il n'est pas un sauveur pour eux. ils n'eurent jamais besoin de salut. Il ne fut pas un guérisseur pour eux. Non! Gloire à Dieu! Il n'est pas la vie pour eux. Certainement pas. Ils ne furent jamais morts dans le péché et les offenses. Nous l'avons été et nous avons été vivifiés. Nous y sommes. Que dirons-nous avec nos couronnes? Vous êtes révérend tel et tel? Non, 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 non. À lui toute la gloire. C'est cela, vous y êtes. Alors nous raconterons comment nous avons vaincu. Nous le comprendrons mieux bientôt. Puis qu'arriva-t-il? Dieu a dit simplement, « Eh bien, je ferai tout aussi bien. » Dieu a-t-il dit simplement, « Eh bien, je ferai tout aussi bien de détruire toute ma potasse et mon calcium, car tout est ruiné. » Non, non. Il savait qu'il en serait ainsi. Or, si le Saint-Esprit m'a fait tel que je suis, que je mange des aliments et que je remette dans mon corps ce dont il a besoin, si bien que je suis devenu ce que je suis maintenant, pourtant j'ai été fait et formé. Chaque image que Dieu avait vue avant la fondation du monde se matérialise. Vous voyez, c'est venu de la femme, comme il avait annoncé, la fois suivante, cela vient de Dieu. Cela vient cette fois-là par la femme, cela vient cette fois-ci par l'homme. Vous voyez, cela vient cette fois-là par un désir sexuel, cela vient cette fois-ci par la parole parlée de Dieu. Vous voyez, maintenant quelque chose peut-il me faire du mal? Non, monsieur, rien ne peut nous faire du mal. Paul déclara, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la maladie, ni la mort, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer. J'ai raconté une petite histoire à ce sujet. Je suis presque complètement chauve à 5 cheveux près. Alors que je peignais ces quelques-uns, il y a quelque temps, ma femme me dit, « Billy, tu es presque chauve. » Je dis, « Mais je n'en ai perdu pas un seul. » Elle dit, « Où sont-ils ? » Je répondis, « Où étaient-ils avant que je les aie ?» Voyez-vous, ils sont là où ils étaient avant que je les aie. Or, il y a 100 ans, ces cheveux n'étaient pas là du tout. Mais ils étaient là-bas, dans la poussière. Est-ce vrai ? Puis il y a environ 50 ans, ils commencèrent à apparaître sur ma tête. D'où sont-ils venus? De la poussière. Et maintenant, ils retournent à l'endroit où ils étaient. Est-ce vrai? Ils n'étaient pas, puis ils furent, et maintenant, ils ne sont pas. Qu'est-ce? Qui les fit ce qu'ils sont? Dieu! C'est cela! Il peint un tableau. Il dit, c'est ainsi que je le veux. « Oh, mort, où est ton aiguillon ? Oh, mort, où est ta victoire ?» Ils vont peut-être m'enterrer un de ces jours, ici. Je ne sais pas. Mes frères, je ne serai pas mort. Laissez-moi vous le dire. Non, monsieur. Oh, nous ressusciterons, alléluia, nous ressusciterons, ce matin de la résurrection, quand les barreaux de la prison de la mort seront brisés. Nous ressusciterons, alléluia, nous ressusciterons. Rien ne peut m'empêcher de ressusciter. Il n'y a pas suffisamment de démons dans tout l'enfer pour m'empêcher de ressusciter. Il n'y a pas suffisamment de n'importe quoi nulle part pour m'empêcher de ressusciter. J'ai la promesse de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, j'ai Zoé, la vie éternelle de Dieu qui se trouve là-dedans. Cette vie, cette vieille carcasse vient de là, et Dieu m'a fait sortir du sol. Et c'est lui qui m'a tiré du sol, que j'ai atteint l'âge de raison. Or, chaque fois que j'entendais la cloche d'une église, quelque chose me parlait. Alors que je n'étais qu'un petit garçon, un ange me parla d'un buisson. Il dit, « Ne bois, ne fume jamais, j'ai un travail pour toi. Ne souille pas ton corps en courant avec tes femmes. J'ai quelque chose à faire pour toi quand tu seras plus grand. » Qui es-tu? Qui es-tu? Tu en sauras davantage à ce sujet plus tard. Et un peu plus tard, le voilà qui vient. Il se tient là-bas au baptême. Il se montre, il se déclare, il répond, « Je le vois partout. » Comment allez-vous? S'il m'a fait tel que je suis, c'est que je n'ai pas le choix du tout? Je ne suis jamais allé là-bas pour dire, « Maintenant, Charlie Branham, tu épouses Ellie Harver, et tu me fais sortir de la terre. » Non, monsieur, je n'ai jamais eu le choix. C'est Dieu qui a fait cela. Amen. Et s'il m'a fait ce que je suis sans que j'aie à choisir, à combien plus forte raison que le Saint-Esprit se mette à me couper, je dis, « Oui, Seigneur, tu es mon Créateur. Je t'aime et je t'accepte comme mon Sauveur. Comment allez-vous faire pour me garder dans la poussière ?» Vous ne pouvez simplement pas le faire, frère. Vous ne pouvez pas. Dieu n'a jamais formé de morceaux de calcium, de potasse ou autre pour qu'il soit une fois gaspillé. Tout ce que le Père m'a donné, avant la fondation du monde, viendra à moi. Oh! J'ai envie de pousser des cris et non d'étudier. Tout ce que le Père m'a donné, viendra à moi. Et aucun de ceux-là ne sera perdu, mais je le ressusciterai à la résurrection. Je l'ai entendu appeler et je suis venu à lui. Comment peuvent-il me garder dans la poussière de la terre? Il n'y a pas nulle part suffisamment d'autres porneurs de pont funèbres qui, en me tapant sur le visage avec une pelle, pourraient me garder dans la poussière de la terre. Un jour je ressusciterai et je serai semblable à lui, ayant été lavé dans son sang, étant né de son esprit. Alléluia! Ayez toutes les dénominations que vous voulez, moi je prendrai Jésus.
Amen.
Amen. Un agent d'assurance est venu vers moi, Wilbur Snyder, un de mes bons amis, il dit, « Billy, je veux te vendre une police d'assurance. » Je dis, « J'en ai déjà une. » Ma femme me regarda comme pour dire, « Pourquoi mens-tu ? » Il dit, « Tu as une assurance ? » Je répondis, « Oui, monsieur. » Il dit, « Auprès de quelle compagnie l'as-tu contractée ? Quel genre d'assurance est-ce ? » Je répondis, « Assurance bénie, Jésus m'appartient. Oh, quel avant-goût de gloire divine ! » Héritier du salut, racheté par Dieu, né de son esprit, lavé dans son sang. Il dit, c'est bien Billy, mais cela ne te mettra pas dans le cimetière, mais dire, cela m'en sortira.
Amen.
Alléluia! Je ne m'inquiète pas pour y arriver, mais plutôt pour en sortir.
Amen.
Ainsi, j'ai l'assurance qui me dit, j'amène tous ceux que le Père m'a donné. Peu importe ce que mon papa a fait, ce que ma maman a fait, ce que t'es quoi que ce soit, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et nul ne peut venir si le Père ne l'attire. Alléluia! Pourquoi a-t-il soupiré pour nous, connu avant la fondation du monde? Quand je tuais l'agneau, je le tue avec lui. Amen! J'ai prédestiné une église. Qui a la prédestination? L'église. Comment entrez-vous dans l'église? Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Il savait avant la fondation du monde que nous serions là. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Dans les livres de Dieu, il a déjà dit, ils me rencontreront à cet endroit-là. Tous les démons ne peuvent les garder nulle part que s'ils sont censés se trouver à cet endroit-là. Parce que Dieu l'a déjà dit, la chose est réglée. Si 100 milliards d'années avant la création du monde, les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et les fils de Dieu, les anges et tout le reste poussaient des cris de joie à ce sujet, avant la fondation du monde, comment le diable va-t-il pouvoir me garder dans la poussière de la terre? Il ne le peut pas. Vous avez raison. Maintenant, voyons, c'est l'heure démocrate que j'ai ici. J'ai ici 11h-20, ce qui fait seulement 10h-20. Est-ce juste, Greenwood? C'est juste 10h-20. Tout le monde est-il heureux? Oh, je désire continuer à voyager. Je désire continuer à voyager.
Ma demeure céleste est lumineuse et belle.
Et
je désire continuer à voyager.
Oh,
je désire continuer à voyager. Aimez-vous ce genre de vieux cantiques? Il y en avait un vieux que nous avions coutume de chanter qui disait « La grâce et la miséricorde m'ont trouvé, là les étoiles du matin ». Qu'est-ce, sœur Gertie? Voyons, qu'est-ce, frère Neville? Quelque chose comme « La grâce et la miséricorde m'ont trouvé, là l'étoile du matin, brillant du matin, rayonne autour de moi ». Oui, à la croix. Donnez-nous-en la tonalité, sœur. Près de la croix. Oh, j'aime ces chants. Combien aiment ces vieux cantiques inspirés? Vous pouvez avoir tous vos sauts de haut en bas, tout le boogie-woogie que vous voulez. Mais donnez-moi ceci. Voilà où la grâce, la miséricorde m'ont trouvé. C'est cela. Jésus, garde-moi près de la croix. Il y a là où est sur la terre. Gratuite pour tous, apportons la guérison. Qui coule de la colline du Calvaire. croix, à la croix.
Et la croix,
sois à jamais ma gloire. Jusqu'à ce que mon âme enlevée trouve du repos au-delà de la rivière. Oh, oh, comme c'est beau. Pensez-y, qu'arriverait-il s'il n'y avait pas de sauveur? Qu'arriverait-il si nous n'avions pas cette parole? Qu'arriverait-il si ne vous avez pas appelé? Qu'arriverait-il s'il ne vous avait pas connu d'avance et que vous étiez dans le reste du monde ce soir? L'aimez-vous? Oh, maintenant, n'oubliez pas le service demain matin à 9h30. Donnez-nous la tonalité pour il y a de la place à la fontaine. Ce vieux, bon vieux cantique, il y a de la place à la fontaine. Combien le savent? De la place, oui, il y a de la place à la fontaine. Maintenant, quand vous le chantez, tournez-vous tout simplement, tout doucement et serrez la main du frère qui est à côté de vous. Vous savez, il y a de la place maintenant pour tous, méthodistes, il y a de la place pour les baptistes, il y a de la place pour les pentecôtistes, il y a de la place pour nous tous, maintenant à la fontaine. Combien connaissent ce vieux cantique? Oh, bien sûr que vous le connaissez, certains de vous qui êtes anciens. C'est un bon vieux chant du Kentucky. De la place, maintenant serrez-vous la main. Oui, il y a de la place à la fontaine pour toi. De la place, oui, il y a de la place à la fontaine pour toi. Maintenant, j'ai une petite surprise pour vous. Tous les derniers sermons et les livres seront en vente à l'autre bout de l'église lors des réunions de la semaine prochaine. Les bandes et tout le reste. Oh, de bonnes brochures. Il y aura une table dans une des pièces du fond et la littérature, les derniers sermons et certains des bons écrits qui ont été publiés récemment des nouveaux livres et dans les nouvelles éditions seront disposés au bout du bâtiment. Mercredi soir prochain. Et nous nous attendons à un moment béni dans le Seigneur. Maintenant, venez-y dans un esprit de prière. Appelez vos malades et vos affligés. Écrivez-leur et amenez-les ici. Et nous, Dieu va agir puissamment. Et nous savons qu'il le fera. Et maintenant, je suis allé vers tous ceux qui, je savais, avaient un petit quelque chose. Maintenant, s'il y a quelque chose dont on s'est débarrassé, vous souvenez que je vous ai dit il y a longtemps que nous allions mettre cela en ordre. Et je sais que vous réalisez qu'il y a ici un esprit différent, maintenant qu'auparavant. Vous voyez, c'est vrai. Maintenant, ne laissez plus partir. Je vous conjure devant Jésus-Christ de ne laisser pas partir. Restez avec cela ici même. Vous voyez, gardez simplement tout aplani et allez de l'avant. Vous êtes frère. Ce n'est jamais votre frère ou votre sœur qui fait quelque chose de mal. Mais c'est cet esprit du diable qui s'introduit là. Vous voyez, ayez pitié du frère ou de la sœur et sachez que c'est Satan qui se met entre deux. Si vous avez du ressentiment à ce sujet, faites-le sortir de vous immédiatement, vous voyez. Parce que cela va vous ronger. Oui, c'est vrai. Ainsi, restez-en éloignés. Souvenez-vous simplement. Il y a de la place, beaucoup de place. Il y a de la place pour les méthodistes, de la place pour les baptistes, de la place pour les presbytériens, il y a de la place pour tous.
Yes, there is room.
Combien se souviennent de notre vieux chant de séparation? Se prend le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse et de malheur. Il te donnera la joie et le réconfort. Prends-le partout où tu vas. Je souhaiterais que vous puissiez rester avec nous, frère Jeffries, vous et sœur Jeffries, et les garçons là et tous. Et ensuite, nous inclinons au nom de Jésus, nous prosternons à ses pieds. Oh, dans le ciel, nous le couronnerons roi des rois, quand notre voyage sera terminé. Prenez le nom de Jésus avec vous, prenez-le aujourd'hui comme un bouclier. Oh, que la tentation s'approche de vous, murmurez ce saint nom en prière. Oh, j'aime cela. Par vous, ce merveilleux nom de Jésus. Maintenant, levons-nous pour le chanter. Très bien. Prends le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse et de malheur. Il te donnera la joie et le réconfort. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom. Oh, comme il est doux. Espoir de la terre et joie du ciel. Prêche le nom. Ô comme il est doux. Espoir de la terre et joie du ciel. Maintenant, c'est un peu différent. Inclinons simplement la tête et levons une main en disant. Nous inclinons nos mains à ses pieds. Dans le ciel, notre voyage sera terminé. Precious name, oh how sweet, oh how sweet, oh for earth and joy of heaven. Precious name, yes, precious name, oh how sweet, oh how sweet, oh for earth and joy. Maintenant, en gardant toujours nos têtes inclinées, nous disons...